Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 15 juin 2019.
Oui.
Et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 49e volet de l'Entrepode. Alors un Entrepode fin de saison, sans invité, mais pas des moindres, car vous l'avez entendu, c'est l'épisode 49, celui qui précède le 50, et pour le 50 je peux vous dire qu'il y aura du lourd.
Oula.
Un épisode également avant Hellfest, où nous promènerons notre micro la semaine prochaine, et surtout un épisode en parallèle avec l'Armada 2019, où nous avons la chance d'avoir les plus beaux voiliers du monde au pied de chez nous, à Rouen, mais pas au micro, car le local est bien trop petit. Alors la voile, les bateaux, la navigation, ça nous connaît. Il faut les voir sur son fameux trois mâts, le crâne dégarni, la mèche portée au vent. Bah non, pas de cheveux, pas de mèche, pas de prise au vent. Seulement cette stature Captain Igloo, viril et fort, à s'empiffrer des bâtonnets de poisson panés toute la journée, j'ai nommé Christophe.
Ouais, allô, oh il c'est haut.
Elle, une vraie figure de proue. Lui, un vrai capitaine de navire. Elle, surplombant l'avant du bateau. Lui, tenant la barre d'une main forte et ferme. Elle est belle, sensuelle, pulpeuse à moitié dénudée. Oh là là. Lui, dans son costume d'officier, inspire le respect. Elle domine les flots et défie toutes les tempêtes. Lui, l'a attachée ici. Pourquoi? Bah parce qu'elle fait un petit peu chier, bordel. Jamais d'accord avec ses décisions, toujours à donner son avis sur tout et sur rien. Et puis merde, on est en mer. C'est la tranquillité qui règne, puis elle les braille tout le temps. J'ai nommé Didouille et Lulu.
Salut.
Salut tout le monde.
Il arrive au lointain, son bateau crevant un coucher de soleil, à faire pâlir Claude Monet. Sa silhouette imposante se dessine au fur et à mesure de son approche. Les badauds éparpillés sur les quais s'impatientent de savoir qui accostera prochainement. C'est un peu long quand même. Tout à coup, on le reconnaît. Bah en fait, il est pas loin, il est super près. Il a 5 mètres du bord, dans une barque. Un effet d'optique. Non, non, juste Arnaud. J'ai nommé Arnaud.
Bonjour.
Ah, et elle, sirène, qui a failli faire perdre la tête à Ulysse pour son chant angélique et raffiné. Merde, je me suis planté. Elle exerce sur le commun des mortels son attraction divine et enchanteresse qui les conduit au naufrage et à la désolation. Elle exerce la même attraction sur ma personne quand, armée d'une bouteille de vin à la main, elle me dit « Tu veux boire un verre ?» Son poignet, en tenant ce breuvage, s'approche délicatement du verre. Légèrement incliné, je succombe, je ne peux plus résister à son charme pinardien. J'ai nommé Starlet.
Salut.
Oh, et toi
pinardien.
J'aime bien celle-là, pinardien. Et oh, toi, capitaine de la frégate L'Entrepode. Toi et toi seul, qui, sur les flots, a pu nous amener jusqu'ici? 6 ans de traversée à tes côtés, 6 ans d'émission, 6 ans d'inviter, de croiser sur les rivages lointains.
T'aurais mieux fait d'éviter de venir.
49 émissions, des festivals, c'est énorme. Ce que tu as pu nous faire encore en ce moment,
mais je suis
complètement planté encore. Alors pour cette dernière émission de la saison, je veux te remercier pour ton engagement, pour la passion que tu as pu nous communiquer, pour le professionnalisme dont tu fais preuve. Je suis fier, et nous sommes fiers autour de la table, d'être tes matelots. Nous te suivrons encore et encore sur les océans d'émissions. Je te redonne la barre du navire, mène-le encore très loin. C'est à toi, Nico.
Oh là là, c'est une déclaration d'amour.
Quel lyrisme.
Oui,
c'était une ode à mon Nico, parce que je l'aime bien, parce qu'il nous amène au Hellfest cette semaine prochaine.
Je t'emmène nulle part, c'est toi qui nous emmène d'ailleurs. Je sais pas si t'es au courant.
T'as ta trottinette
Oublie pas.
Je l'achète la semaine prochaine.
Tu l'achètes la semaine prochaine?
À 3 sur la trottinette, ça va être.
Mais après le Hellfest ou avant le Hellfest?
J'achète la trottinette, je vais acheter des chaussures.
Ça c'est une bonne chose.
C'est mieux d'y aller avec des chaussures.
Commence par les godasses et vois la trottinette après.
Oui, j'en ai fait les frais, mais oui,
c'est priorité. Bah merci Marius.
Hein? Bah non.
Bah si. Je t'assure.
Bon bah toi aussi tu fais des bisous.
Et donc comme tu l'as dit, c'est un épisode pour préparer l'été, finir cette 6e saison déjà, hein, n'est-ce pas? On n'y aurait pas cru. Et puis encore 6 certainement devant nous. Et c'est un épisode où on est quasiment tous autour de la table. Mais si vous avez suivi la description de Marius, il nous en manque un.
Ben oui.
Il nous manque le Freddy, il nous manque le fidèle matelot. Ou plus, je sais pas, le bras droit du capitaine, je sais pas trop, je connais rien à la marine. Mais lui, il a travaillé pendant 12 jours justement à l'Armada et aujourd'hui, il est un petit peu fatigué. On lui fait un gros bisou à Freddy. Et puis, on le retrouvera très prochainement, peut-être pour un 50e, qui sait.
Pour des nouvelles aventures.
Exactement.
Qui a fait ce bruit?
Ils sont deux à l'avoir fait, je crois. Non,
moi j'ai rien fait.
Non, j'arrive à faire un bruit en faisant
en signalant
deux personnes. Binaural, voilà.
Qu'il est fort. Et donc un épisode sans invité, ça veut dire un épisode qu'avec des rubriques de l'Entrepode. Aujourd'hui, il y aura Christophe, Ludo, Qui est l'autre?
Bah toi.
Moi.
C'est marrant, je sens que ça te démarre bien tout de suite.
J'ai eu peur, j'ai dit.
Et Didouille, pardon, voilà.
Alors en fait, bonjour, c'est la dernière émission. J'en peux plus.
J'en peux plus.
Et à la semaine prochaine.
Et on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes chrono. Tout ça sous la barre des deux heures, c'est ce qu'on dit à chaque fois.
Exactement.
On va essayer de s'y tenir sans trop de soucis.
On a intérêt à s'y tenir.
Ah ouais, merde.
De toute façon, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Donc,
sous la barre du bateau.
Sinon, les rats quitteront le navire avant la fin.
Exactement.
Voilà, regarder
on va faire des blagues comme ça de tour.
Ah ouais, mais carrément. Ah ouais,
ça va être génial.
En tout cas, moi, si c'est pas fini, je vous retrouve au bar tabac à côté.
Bon, on va commencer par toi, tiens, du coup.
Bon, bah d'accord.
Tu as l'air super chaud.
Tu m'as l'air bien parti. Donc. Un petit jingle pour te lancer.
Petit puis... jungle.
Et maintenant, la parlette de Proust.
Hello and welcome. Hit the record button.
Allez, il t'a plu le film?
Alors, de quoi nous parles-tu donc?
Bonjour.
D'accord.
De quoi je vais vous parler sur cette émission? Eh bien, en fait, je vais vous parler d'un film. Alors, ce serait un peu particulier, puisque d'habitude, je présente des films que j'ai vus ou qui sont sortis déjà depuis un moment. Eh bien, là, ça ne va pas être le cas, parce que je vais vous sortir...
Tu ne l'as pas vu.
Si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a même Arnaud qui se sauve parce que lui, il veut le voir. Et en fait, évidemment, il ne veut...
Il veut être vierge de tout.
Arnaud est tellement sensible au spoil qu'il ne veut même pas savoir le titre.
Exactement. Donc... Alors, en fait, il faut savoir...
Et donc, tu vas spoiler ou quoi, non?
Alors, le film dont je vais parler est extrêmement récent et je vais garantir cette rubrique sans spoil, donc sans huile de palme ni spoil, comme ça, au moins. Donc, c'est aussi un petit défi parce que ce n'est pas évident de parler d'un film dont on ne va rien révéler. Bon courage à tous et à toutes. Donc en fait, ce dont je vais vous parler, c'est donc comme... il s'agit de Parasite. Parasite de Bong Joon-ho. Tout simplement la Palme d'Or 2019 du Festival de Cannes 2019.
Wow.
C'est ça qui est assez génial. Il y a une forme de cohérence dans mon propos qui est assez formidable. Donc, déjà pour resituer rapidement en deux mots qui est Bong Joon-ho, vous avez forcément entendu parler d'un, au moins un ou deux de ses films, puisque Bong Joon-ho, qui est un réalisateur coréen, qui a 49 ans, ce qui file un peu une claque quand même quand on voit l'œuvre du bonhomme, ça pique les fesses, et ben, il est notamment connu pour un film, c'était son premier film en France, qui s'appelait Memories of Murder, qui était sorti à l'époque en 2003, qui était tiré de l'histoire vraie d'un tueur en série, qui était un film, à l'époque, que j'avais vu, qui était magistral, enfin, un film formidable, qui avait été d'ailleurs un énorme succès en Corée à l'époque, et qui avait vraiment lancé sa carrière. Un film un peu plus proche de nous en 2006, c'était The Host, pour ceux qui l'avaient vu, hein, sur cette histoire d'un monstre qui sévit à Séoul suite à l'épandage de produits toxiques par les Américains.
Donc, salaud d'Américain.
Voilà, salaud d'Américain. Mais surtout, je crois que c'est vraiment celui pour lequel Bong Joon-ho est le plus connu, c'est le transpersonnage Snowpiercer, qui était sorti en 2017, tiré de la bande dessinée éponyme. En 2017, c'était Okja, qui est sorti sur Netflix, qui avait d'ailleurs créé la polémique, en tout cas, du moins... à Cannes, c'était plutôt le fait que le film soit produit par Netflix et ne sorte pas en salle,
C'était le début des sujets, c'est ça, tu connais mieux que ça, moi, mais sur les problématiques de est-ce qu'un film qui sort en salle peut être dans les compétitions ou pas, ou est-ce qu'il faut... Là, c'est un problématique d'accès, de conditions, etc.
Est-ce qu'il avait accès au Festival de Cannes? Bref, il nous revient le pépère en 2019 avec Parasite. Et alors Parasite, je vais donc, comme je disais tout à l'heure, je vais tenter de vous donner envie sans spoiler. Mm-hmm. Et c'est surtout pour ne pas gâcher en fait, le plaisir de la découverte aux futurs téléspectateurs. Alors, est-ce que vous connaissez un peu le pitch de base ou pas du tout?
Mais pas du tout.
Non.
Je vais au moins vous donner le pitch de base.
Et pour être franc, j'ai vu aucun des films que tu as cités jusqu'à présent.
Eh bien écoute, ce sera l'occasion de les découvrir. Transpersonnage, tu n'as pas vu?
Non.
Alors c'est intéressant.
J'ai vu plusieurs fois la BD, mais jamais vu le film.
Je vais y revenir, j'y reviendrai, parce qu'il y a un très très chouette parallèle entre Parasite et le transpersonnage sur un plan, mais j'y reviendrai, si j'y pense. Donc en fait, le pitch de base, c'est quoi? Eh bien c'est simple, c'est une famille de pauvres, de chez pauvres, qui vit dans le sous-sol d'un appartement, mais qui vit même en dessous du niveau de la rue, en fait. Donc ces gens vivent d'expédients, de petites combines en tout genre. Ils adorent le dieu Wi-Fi, cette espèce de truc un peu comme ça. Et ils sont tous au chôme du. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tenter d'infiltrer une famille de riches, riches effectivement, qui sont eux installés sur les hauteurs. Sur les hauteurs de la ville. Alors pour le coup, ils vont non seulement infiltrer, ils vont essayer de les infiltrer. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont petit à petit pénétrer dans le quotidien de cette famille-là, dans une demeure qui est juste somptueuse. Mais ça, ce n'est que le pitch de base. Voilà. C'est évidemment le film derrière. De ce point de départ, Bong Joon-ho livre une œuvre, mais alors qui est non seulement inattendue, mais en plus, splendide quoi. Alors déjà sur la forme, la mise en scène, elle est juste à tomber par terre. Enfin, vraiment, que ce soit sur les mouvements de caméra, les plans, la photographie, j'ai pas envie de citer d'exemple parce que encore une fois, je veux garder,
garder la surprise.
Je veux garder la surprise pour ceux qui le veulent. Mais vraiment, faites-moi confiance. Visuellement, le film est magnifique et en plus de ça, la mise en scène, elle est vraiment complètement au service de l'histoire et du sujet. Parce qu'en fait, le sujet du film, c'est la lutte des classes. Mais alors, la lutte des classes, mais pas que la lutte des classes, c'est surtout toute la violence sociale qui découle de la lutte des classes. Alors, dit comme ça, vous dites, hop, oh, là, le pensum qu'on va se taper, machin et tout.
Exactement.
Eh bien, non, pas du tout. Parce que justement, le thème qui aurait pu être traité de manière super lourde, stéréotypée, etc., c'est pas du tout le cas ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le film À bras ouverts avec Christian Clavier ? Vous savez, ce film où, en fait, Christian Clavier joue un écrivain qui est marié à une héritière assez riche, et en fait, il sort un bouquin sur les pauvres, machin, comment les accueillir et tout, et on le met au défi d'accueillir du monde, et il va accueillir des Roms chez lui. Ça vous parle pas, c'est un film
ça dit quelque chose.
J'imagine comment c'est traité.
Donc une bonne comédie, une comédie bien, vous voyez ce que je veux dire, une bonne comédie. En fait, surtout une comédie, après, elle vaut ce qu'elle vaut, simplement, elle accumule les poncifs, les clichés, enfin, vous voyez, la totale, quoi. En fait, sur un thème similaire, Parasite, c'est juste l'antithèse absolue, quoi. C'est l'antithèse absolue, c'est-à-dire que là où, comme je vous disais, À bras ouverts accumule tous ces clichés-là, eh bien, en fait, Parasite, lui, embarque le spectateur, mais dans un voyage où l'inattendu peut surgir, mais à n'importe quel moment, où les personnages, en fait, sont pas forcément là où on les attend. Il n'y a pas vraiment de méchants, il n'y a pas vraiment de gentils. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire, y aurait les gentils pauvres, puis il y aurait les méchants riches. Ou encore inversement...
Les pauvres parasites et les gentils...
Et les gentils riches. Non, pas du tout. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein, c'est salaud de pauvres. Mais quelque part, en fait, la vision que chaque classe porte sur l'autre est extrêmement... est extrêmement marquée, mais surtout, elle n'est pas consciente. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que chacun vit avec ses codes. Ses codes, ses préjugés, et sur la façon dont il imagine que les autres vivent ou comme ils doivent vivre, en fait.
Et ça, c'est retranscrit dans le film, en fait.
C'est formidablement retranscrit, en fait. Et donc, ce qui se passe, évidemment, comme je vous disais, les personnages sont habités, sont complexes. Et en fait, c'est justement ça qui est terrible. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de vous n'avez pas un méchant, un gentil...
C'est pas manichéen, complètement.
C'est pas manichéen. Ça rend... Le film est d'autant plus puissant, en fait. Et c'est ce qui, je dirais même, non seulement c'est ce qui rend le film encore plus puissant, mais surtout encore plus violent. Parce que le film porte une violence vraiment très forte. Mais en fait, quand je dis le film passe le film est extrêmement violent, ne nous méprenons pas. En fait, le film, ce qui est assez génial aussi, c'est qu'il n'arrête pas de passer d'un genre à l'autre. En fait, le film, ça n'arrête pas.
J'ai entendu que c'était un film drôle, en fait.
C'est un film super drôle.
Mais comme tu le présentes là jusqu'à présent...
Quand tu dis d'un genre à l'autre, c'est de quel genre à quel genre,
j'y viens. Le film, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'on passe de la fable sociale, la satire, presque du burlesque aussi. C'est trop drôle. La comédie noire, extrêmement acide. Et on peut basculer dans le thriller... Dans l'horreur.
Mélodrame.
Limite dans le mélodrame, tout à fait, dans le mélodrame. En fait, tu pourrais dire, le film d'horreur, machin, tout ça. Non, en fait, tout ça se combine. En gros, ce n'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas que ça. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas...
Il y a des touches de différentes références.
Voilà,
quoi.
Exactement. Parfois, vous pouvez même avoir juste un plan où vous dites, en un plan, le gars, il te fait un truc qui te terrifie. Mais qui te terrifie tout simplement. Franchement, il y a un plan, ça faisait longtemps, j'avais pas vu
même
un plan.
Même toi qui as vu l'attaque des tomateuses.
C'est pas très terrifiant, l'attaque des tomateuses. Tu as des plans, tu as un plan que je trouve juste, qui te scotche dans le fauteuil. Voilà, j'en dirai pas plus. Et pourtant, il dure quoi ? Il dure même pas une seconde. Formidable, quoi. Et à côté de ça, tu as des scènes hyper drôles sur la façon dont la famille riche va juger un peu les pauvres, mais inversement, en fait, comment les pauvres vont faire leur chemin là-dedans. Vraiment, en fait, ce qui est assez fort, c'est qu'on est trimballé en permanence dans une espèce de... on pourrait parler de roller coaster. En fait, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est, balayé.
D'humeur, d'ambiance.
Ouais, c'est vraiment un ascenseur émotionnel avec cette famille vraiment qui est très soudée, qu'on sent vraiment très soudée, cette famille de gens qui essaient de s'en sortir, quoi, puis qui vivent de leur combine et qui sont extrêmement sympathiques et en même temps qui vont essayer de s'en sortir. Voilà, avec comme je disais, avec leur
code.
C'est un peu de l'escroquerie en fait. Hein, ils y vont, voilà. Mais à côté de ça. On a à côté de ça.
Je disais que ça me parlait.
Et on a à côté de cette famille de riches, par exemple, qui eux, on leur cause, qui sont fascinés par l'Amérique, par les États-Unis, parce que voilà, c'est un peu, c'est et qui des fois sont complètement à côté de leur pompe, en fait. Qui essaient de parler anglais, par exemple, parce que ça se fait de parler anglais et tout, et ça crée des scènes de vraiment extrêmement drôles. C'est comme ça tout le long du film, avec notamment il y a une scène en fait dans le film qui est extrêmement chouette. Là encore, je vais rester très très évasif malheureusement, mais qui est vécu de deux points de vue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un événement qui a lieu, qui a des conséquences terribles pour les pauvres et qui est vécu presque entre guillemets comme un spectacle pour les riches. Et là, c'est vraiment extrêmement fort. Vraiment, je vous dis, on voit le film, on peut qu'être pris là-dedans. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et donc pour finir.
Ça y est, ça.
C'est difficile d'en dire plus parce que là, évidemment, encore une fois, je veux pas aller au-delà.
Non, mais déjà, je trouve que.
Oui, moi, je veux juste vous laisser le plaisir
et
de la
le
découverte.
Le film dure combien ?
Il dure 2h12.
Ah, ça doit être.
C'est un film assez long. Enfin, 2h13, enfin 2h10, 2h15.
Allez,
parce que vous m'êtes sympathique, je mets 2h13 et voilà.
Allez, 2h30 avec le début et la fin.
En conclusion, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un film qui est profond, qui est extrêmement intelligent, formellement magnifique et qui vous lâche plus jusqu'à sa conclusion.
Qui est bien aussi.
Qui est magistral. Enfin, en tout cas, moi, je veux dire, ça fait du bien d'aller au Cinoche, quand on peut, de se dire qu'on peut encore vivre ce type d'expérience au cinéma. Alors, vous allez vous dire, peut-être que je survends le film, peut-être que vous verrez le truc, vous direz, oh, c'est pas du tout ce qu'il m'a vendu, là.
En même temps, moi, Juliette, notre fille, est allée le voir, 18 ans, elle a adoré.
On est ressorti enchanté. Moi, franchement, ce film-là, la salle était pleine. Étonnamment, alors, je vais faire un peu local, le film, donc, à Rouen, en tout cas, n'est diffusé que dans une salle, enfin, en tout cas, un cinéma, c'est l'Omnia à Rouen, pour ceux qui connaissent.
C'est étonnant. Quand même.
Il n'est pas diffusé dans les multiplexes que sont les deux Gaumont, en fait, que l'on connaît. Alors, peut-être qu'il est diffusé à UGC, ça, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. En tout cas.
En tout cas,
tant mieux pour l'Omnia, puisqu'en fait, la salle, comme je disais, était pleine. Et puis, j'espère qu'elle va le rester longtemps.
Tu sais jusqu'à quand, oui.
L'Omnia, c'est toujours.
Tant que ça marche. Pour l'instant, il est en salle 1, il s'était blindé. Donc. Moi je vous dis allez-y vraiment ça vaut vraiment le coup en attendant le prochain Tarantino au mois d'août donc
pour aller le voir
vraiment
on ira ensemble
c'est vraiment
on ira ensemble
tous les deux
écoute
moi une petite sirène
donc voilà Palme d'Or mais amplement
pour toi mérité
moi pour moi c'est formidable.
Arnaud tu peux revenir,
je vous recommande vivement.
En tout cas, tu l'as super bien vendu, quoi. Déjà j'avais envie de le voir avant,
avec beaucoup d'inattendu. Ce que je vous dis comme pitch de base, c'est le début.
Arrêtez là.
Moi, je suis assez étonné parce que
il peut plus se retenir.
J'en ai discuté avec un ami qui l'a vu.
Ça vient.
Et il m'a dit.
Ça
m'a dit que c'était complètement surfait.
Arnaud, il revient, mais
par rapport.
Alors, on t'a pas dit Arnaud.
Comment dire, à l'encensement médiatique qui en est fait. Et donc, je me suis dit, c'est étonnant parce que voilà. Et par rapport à ce que tu dis là, je me dis que comment il a pu trouver ça surfait.
Alors, attends. Moi, encore une fois, alors ça, c'est,
mais
pourtant c'est quelqu'un, peut-être, mais pourtant c'est quelqu'un qui a le même profil cinématographique que toi, c'est-à-dire qui est un vrai fan de cinéma.
Voilà.
Tu vois.
Et j'ai vraiment été étonné.
Je pense que c'est peut-être une question de sensibilité.
Mais comment en ce moment ton pote, il est bien dans sa tête, il est comment
peut-être qu'il a un peu de
problèmes. Peut-être qu'il y a des problèmes.
Ce serait intéressant d'en parler avec lui en fait si on a l'occasion. Mais moi, en tout cas, c'est un film. C'est intéressant, c'est que c'est un film qui te reste derrière.
Ouais. Dépêchez-vous parce qu'il se digonne les oreilles. Arnaud, là, il en peut plus.
Arnaud qui va nous faire un 5-up sur le côté. Ça serait bien qu'on passe à autre chose.
Tu l'as filmé
En fait, c'est un film qui. Moi, j'aime bien quand tu sors d'une salle de cinéma. d'avoir un film auquel tu sais où tu repenses au film. Tu vois, tu dis waouh. Wow. En fait, tu dis waouh, c'était bien. Et quand tu repenses, putain, c'était quand même vachement bien.
Et serais-tu prêt à aller le revoir?
Ah oui.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il est déjà hyper bien vendu par tous les médias finalement. Et donc, parfois, dans ces cas-là, on peut être déçu. C'est-à-dire que
c'est pour ça.
C'est-à-dire qu'on peut être déçu parce qu'il est tellement étalé en fait dans tous les médias en disant c'est un film exceptionnel, c'est grandiose, etc. Et quand tu as l'occasion de le voir, tu trouves qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et ce que toi tu ressens.
Bien sûr.
C'est en ce sens-là qu'il disait que c'était surfait. Quoi.
Alors moi, ce qui s'est passé, qu'en fait, le Parasite, je voulais le voir, le truc avec Juliette. Alors, en tout cas, moi, ce que j'avais fait, à partir du moment où je vois un film, effectivement, je ferme tout. C'est-à-dire que je ne lis aucune critique, je ne lis plus rien, puisque je sais que je veux le voir. Moi, bonjour, j'avais vachement aimé ces films précédents, donc j'étais parti pour y aller. Donc si tu veux, je n'avais pas lu. Sauf la seule chose que je savais, c'est qu'évidemment il a eu la Palme d'Or et qu'il avait eu un très très bon bouche à oreille. Maintenant, j'ai pas lu plus que ça. Un pain de bouche à l'oreille. mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est toujours le problème.
Un pain de bouche à l'oreille.
Tu sais, on connaît ça, c'est quand il y a un film que t'as adoré et tu en parles vraiment avec beaucoup de passion parce que toi tu l'as vu dans des circonstances particulières ou parce que tu l'as découvert, etc.
Et puis il fait plof chez quelqu'un d'autre.
Ça peut. Moi je me souviendrai, c'était Didou, il va s'en souvenir.
Trois hommes et un couffin.
Non, Le silence des agneaux, moi c'est un film que j'ai.
Moi j'étais pas avec toi.
Et un film que j'ai adoré. Un film que j'ai adoré et que Didouille, tu t'avais laissé un souvenir assez marquant. Didouille en parle aux enfants en disant c'est un film, ça m'a terrorisé, machin, etc. Les enfants l'ont vu et se sont dit waouh, tout ça pour ça. Et pourtant, c'est un film.
C'est ce que m'a fait l'exorciste. Ouais.
Voilà.
Je l'ai regardé en rigolant quoi, presque.
Bah voilà,
je m'attendais à avoir peur. Je me suis dit bah.
Donc je. Après, faites votre opinion, je vous invite vraiment à y aller et puis ou attendre peut-être que le film soit passé et puis revenir dessus une fois que c'est plus calme, je sais pas, mais en tout cas c'est formidable quoi. En tout cas, moi j'ai adoré.
En tout cas, merci, tu le vends super bien.
Ouais, bien.
Tu peux rappeler Arnaud.
Arnaud peut revenir. Alors, je voulais juste dire que j'avais hésité entre Parasite et Rien que pour vos cheveux. Et donc, Rien que pour vos cheveux, peut-être que j'aurai l'occasion de vous présenter un de ces jours. Mais je dois encore le voir si ça.
C'est une parodie de James Bond.
J'ai hâte de le voir. On me l'a tellement bien vendu, celui-là, sur un pitch assez fou d'un ex-agent du Mossad qui devient coiffeur. Merci Arnaud, qui bosse avec moi. Arnaud, un autre Arnaud que notre Arnaud. Arnaud L, on va l'appeler.
C'est une fille.
Voilà. Pour le coup, ce collègue me l'a tellement bien vendu, m'a tellement donné envie à midi à la table au boulot que j'ai vraiment envie de le découvrir et voir ce que ça donnera. Donc peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler.
Alors que moi, j'en avais parlé.
C'est pas Will Ferrell ou un truc comme ça, c'est pas
avec
ça
Adam Sandler.
Adam Sandler, c'est une production de Judd.
On n'entend pas Arnaud qui veut parler.
On n'entend pas Arnaud.
On t'écoute maintenant.
Non, ce qui est vexant, c'est que moi, j'en avais parlé il y a quelques années, mais. Il s'en souvenait pas visiblement. C'est un film qui est scénarisé par Adam Sandler et Judd Apatow.
Ah voilà. Oui. Je trouve ta remarque là de m'avoir
très déplacé
de m'avoir clashé. Donc je disais juste que la fin du film. Vengeance. Voilà.
Merci.
C'est moi.
Ça y est. En tout cas, t'as donné envie.
Il rebut des lunettes.
Tu sais le l'arme thermonucléaire de
super chaud. Et ben justement, tu parles d'arme thermonucléaire. Ah. Je vais prendre la suite.
Transition.
Justement.
J'ai pas vu le conducteur, mais je sais de quoi tu vas parler.
Tu crois? Eh ben, on va voir si tu te trompes pas.
Moi, j'ai pas vu le conducteur.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Le fond de tiroir,
Et oui, donc, si je disais que c'était une bonne transition en parlant de thermonucléaire, c'est parce que moi, je voulais vous parler d'une petite série. Alors, une série qui vient de...
Par contre, tu ne racontes pas la fin.
J'allais la faire.
Je veux pas savoir si elle explose ou pas, la centrale. Hein, okay.
Et donc, tu vois, c'est... Justement, c'est...
Juste le nombre de morts, on va dire.
C'est une série, donc vous avez vous deviné de quoi il s'agissait. Donc c'est une série qui est sortie récemment sur HBO, donc une série qui s'est terminée il y a quelques semaines, je crois, quelques jours, quelques semaines, qui est également disponible en France sur OCS et donc qui a plutôt une très bonne presse médiatique. Et voilà, c'est comme quoi après il y a une vie après Game of Thrones pour HBO. Et visiblement, d'ailleurs, cette série a eu, quand je dis bonne presse médiatique, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec des notes assez incroyables sur les agrégateurs de critiques qu'on peut retrouver sur le net, dépassant justement Game of Thrones, Les Sopranos et toutes les séries qui sont considérées comme étant le top de toutes les séries. Oui, Didouille.
Et elle fait partie du top 5 des meilleures séries à regarder 2019.
C'est possible. Par contre, il ne faut pas taper sur la table.
Pardon.
Et donc voilà, alors pour revenir d'ailleurs sur Game of Thrones, j'ai failli le présenter parce que j'ai beaucoup aimé cette série. Voilà, c'était juste pour un petit clin d'œil au passage.
C'était très bien.
Ouais. Donc je vous parle donc de la série.
N'en déplaise aux haters.
La série Tchernobyl. Alors voilà, un peu comme Ludo, j'espère ne pas survendre cette série que moi j'ai beaucoup aimé. Et quand je dis série, en fait, c'est un peu un terme, je dirais, qui ne correspond pas, puisque c'est une mini-série, puisque ça, c'est une production qui se fait en 5 épisodes, donc quelque chose d'assez court. C'est une série qui a été réalisée par Greg Mazin. Je sais pas le prononcer, en fait, Greg Mazin.
On dit Greg Mazin.
Greg Mazin.
Ok.
It's amazing.
It's amazing, Greg.
It's amazing, Greg.
Et donc cette série, elle a été inspirée en partie du récit de Svetlana Alexievitch, je ne sais pas trop prononcer, qui s'appelle La Supplication.
On dit Alexievitch.
Excellent.
On dit excellent. Et donc cette Svetlana Alexievitch, elle a interrogé pendant 10 ans des personnes qui ont participé à toute cette catastrophe, en fait. Ça représente plus de 500 témoins de l'accident. Ça comprend donc les liquidateurs, ceux qui ont nettoyé, qui sont occupés de l'usine, ouais. Les politiciens, les médecins, les physiciens et des citoyens ordinaires qui étaient riverains de cette catastrophe.
Acteurs, donc.
Voilà, acteurs ou involontaires, des fois. Et donc, l'histoire, vous la connaissez peut-être tous, mais en tout cas, on va rappeler un petit peu les faits. Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, dont le vrai nom est la centrale Lénine, explose.
Tout s'appelait un peu Lénine, de toute façon.
Ouais, en fait, je pense que c'était un peu ça.
Enfin, il y avait à côté de l'école Lénine, non,
non des, sur la rue de Lénine.
Non, rue Lénine, d'accord. Oui.
Des fois, il y avait Staline.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Et donc, cette centrale explose. Dans un premier temps, personne ne sait trop ce qui se passe, en fait. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, beaucoup de gens se sont posé la question de ce qui s'était passé. Et l'histoire débute pas tout à fait comme cela, mais je vous le raconte pas pour que vous voyez un petit peu la mise en scène, parce que la mise en scène est vraiment très bien. On commence pas par l'explosion de la centrale, mais cette explosion, elle est très 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 bien mise en scène, et on a vraiment l'impression d'être dans l'atmosphère. On se sent en 1986 quand on la regarde, c'est assez bluffant. Et donc toute cette histoire, on commence par voir comment se passe la lutte contre l'incendie, puisque la lutte d'un incendie d'un réacteur nucléaire, ça se passe pas comme un feu de maison, mais pourtant les pompiers ne savent pas sur quoi ils interviennent à cause du secret d'État et tout ce qui va bien, donc ils y vont comme un feu de maison et sans se poser aucune question autre que d'habitude, avec les conséquences que ça peut avoir derrière.
Le documentaire que j'avais vu, en fait, ils savaient à quoi ils avaient affaire, c'est-à-dire la radioactivité.
A priori, ils le savaient pas.
Et donc, les liquidateurs que j'avais vus, en fait, ils y allaient tous les quarts d'heure. C'est-à-dire qu'il y avait...
C'est après, mais c'est le
26 avril 1986. Ils reçoivent un truc, ils voient juste qu'il y a une espèce de rayon lumineux qui part vers le ciel, ça c'est l'ionisation de l'air à cause. Et ils se disent juste, tiens, c'est bizarre, c'est une centrale qui brûle, mais bon.
Non, c'est Indépendance D, ça.
Et donc, voilà, on voit les secours qui arrivent assez naïvement et plein de bonne volonté quitter leur famille en plein milieu de la nuit pour aller éteindre un feu en se disant, c'est un feu comme un autre et puis on reviendra demain. Sauf que, ils ne reviennent pas demain. Loin de là. Et puis, on suit aussi les gens qui empêchent l'aggravation de la situation. Une fois que le feu est contenu, tout n'est pas arrêté, parce qu'une centrale nucléaire, ça s'arrête pas comme ça, et un noyau qui fusionne comme ça, ça se passe pas du tout comme on éteint un feu et puis au bout de 2 jours c'est plus chaud, quoi.
Réaction en chaîne, au contraire.
Exactement,
ça prend de l'ampleur,
ces choses là qui sont bien décrites en plus dans la série, sans que ça soit lourd. On n'a pas l'impression d'assister à un cours de physique fondamentale, loin de là. On comprend tout est clair, mais on comprend les enjeux aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un bon physicien pour comprendre ce qui se passe. Et donc on suit les employés de la centrale, leur action, leur inaction, des fois de temps en temps, la façon dont ils sont démunis face à la situation, les scientifiques qui sont pas tous d'accord. Les scientifiques qui sont scientifiques, je dirais, qui font de la recherche fondamentale, et les scientifiques d'État, qui dans l'URSS ont des visions radicalement différentes entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. etc. Et puis le Parti communiste, qui lui a sa vision aussi, ce qui peut ne pas ébruiter, ce qui veut surtout pas ébruiter, le KGB, toutes ces choses-là, et toute cette espèce de mosaïque, encore une fois, de patchwork que tu évoquais tout à l'heure, fait qu'on revient un petit peu, toute proportion gardée, sur ce que disait Parasite, c'est-à-dire que chaque épisode a un angle un petit peu différent. Alors, il n'y a pas d'épisode très comique, loin de là, c'est assez pesant. Mais c'est vrai que c'est pas une continuité complète en fait entre 5 épisodes. Chacun a sa thématique et aborde un angle assez différent.
Ah, c'est intéressant ça.
Et puis ça se termine sur, enfin ça se termine sans raconter non plus la fin complètement. Arnaud, désolé de te spoiler, mais la fin maintenant elle a 30 ans, hein, donc.
Ouais.
Mais c'est la vie d'après.
Oui, mais quand même.
Et donc là, ce que ça a entraîné finalement cette catastrophe, à la fois avec le procès des acteurs et puis un procès pas comme on peut le voir dans certains cas, c'est-à-dire il y a des choses à charge, des choses à décharge et des choses qu'on veut dire, qu'on a le droit de dire, qu'on peut pas dire, etc. Enfin, toutes ces choses-là qui sont imbriquées. Et puis, comment ça a précipité finalement la fin de l'URSS, cet accident nucléaire et le. Voilà. Mmh. Ça, c'est. Je dirais, ça, c'est l'histoire en tant que telle. Mais la série, elle ne fait pas que l'histoire. C'est une. C'est une vraie production, de mon point de vue, artistique. Donc, sur le fond, je m'étendrai pas plus parce que je suis pas un physicien nucléaire, loin de là.
Un peu quand même.
Mais des différents échos que j'ai pu avoir, c'est que c'est très fidèle aux faits historiques. Et même la Russie qui a pas trop aimé le traitement, elle va pas forcément remettre en cause le fond, elle va plutôt remettre en cause la façon dont s'est traité les Russes plus que le fait dont l'incident a été traité. Et donc sur la véracité historique et scientifique, je connais pas plus que ça, mais par contre ça donne envie, on en parlait avec Christophe un petit peu avant, de se renseigner sur d'autres choses, d'aller voir des documentaires, d'aller creuser différents sujets, parce que ça ouvre tellement de choses qui sont à la fois proches, mais qu'on connaît pas en fait, qui sont assez...
En tout cas moi j'en ai vu un de documentaire il y a quelques années maintenant, et qui était assez exceptionnel.
Et on parle...
Il était hyper flippant ce documentaire-là.
Et je reboucle un tout petit peu sur Hors Planète que j'avais présenté la dernière fois dans mes coups de cœur de Notre Planète sur Netflix, où il y a un petit moment qui se passe à Tchernobyl justement quand la vie reprend ses droits maintenant 30 ans après, enfin une partie de la vie parce qu'il y a des endroits qui
la
sont
la nature surtout qui reprend
la nature, oui mais c'est la vie la nature.
Et du coup
l'air la vie Perrier.
Du coup pour le coup les Russes ils ont bien rebondi là-dessus puisqu'en fait il y a des circuits touristiques en fait qui se sont développés autour de.
Je vais revenir après, mais il y a encore des endroits qui sont interdits d'accès, parce que la radioactivité est vraiment trop, trop importante. Et puis moi,
tous ces orphelins aussi qui ont été victimes de Tchernobyl et qui ont été abandonnés parce que.
Officiellement, Tchernobyl
31 morts.
A fait 31 morts.
Ah.
Les chiffres officiels de l'URSS et de la Russie, toujours actuellement, c'est qu'il y a eu 31 morts. Alors que les chiffres officieux. Vont de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers, voire jusqu'à plusieurs centaines de milliers de morts directes ou indirectes à cause de l'accident.
Jusqu'à aujourd'hui même, je pense que...
Peut-être en plus.
Il y a encore des...
Et ça m'a donné aussi envie, à la fois de Tchernobyl, mais aussi, ça fait plusieurs fois que j'essaye
de... Ça t'a donné envie de Tchernobyl.
Grosse envie de Tchernobyl.
T'avais envie de Tchernobyl, c'est ça?
Excusez-moi, j'ai bouffé mes mots.
T'avais envie de te faire Nabil, mais Nabil, il y est pour rien, lui, dans toute cette histoire.
La nana a 24 vagins.
Et donc, non, je voulais me...
Il a pris Tchernobyl.
Je voulais creuser un petit peu. Putain, les mecs. Oh là là, j'en étais oui. Je voulais creuser un peu les sujets autour de Tchernobyl, mais ça m'a donné aussi envie d'aller creuser des sujets autour de Fukushima, qui est quelque chose qui est différent, qui est dans une autre temporalité, mais aussi avec des populations qui obéissent des fois aveuglément, que ça soit la tradition ou que ça soit la politique à l'époque. Il y a des Japonais qui sont quand même allés, parce que l'honneur leur imposait d'aller sauver leur pays, se sacrifier quasiment à Fukushima. Et il y a d'ailleurs un manga qui s'appelle Au cœur de Fukushima, qui est sorti il y a deux ou trois ans d'ailleurs, qui a été écrit par quelqu'un qui travaille sous pseudo, puisque c'est un ancien liquidateur à Fukushima qui explique la vie quotidienne des employés chargés de décontaminer la centrale en 2011. Donc j'aimerais bien faire l'écho pour justement faire par rapport à ce que tu disais, Didouille, tout à l'heure sur les gens qui sont reliés à Tchernobyl.
Sur Fukushima, il y a un paysan qui n'a jamais voulu quitter ses terres et qui s'occupe des animaux qui malheureusement errent. Et du coup, il y a une association américaine qui recueille les chiens de Fukushima pour être adoptés aux États-Unis.
Et apparemment, fait les plus grosses carottes du monde.
Ouais.
Et les chiens, quand ça a deux têtes, qu'est-ce que ça bouffe ?
Par contre, ça brille dans la nuit, donc c'est pratique, tu les retrouves facilement.
Quand tu auras vu Tchernobyl, tu verras qu'ils n'ont pas le même traitement sur les animaux, et ça peut se comprendre aussi d'une certaine façon, mais bon, j'en dévoile
pas trop. N'en dis pas trop.
Mais voilà.
La différence, quand même, c'est qu'à Fukushima, les liquidateurs, ils étaient un peu équipés, quand même.
Oui, mais ça n'empêche que...
Dans Tchernobyl, enfin, dans la série, je ne sais pas si c'est retranscrit, mais... Les premiers, ils y allaient avec des cirés.
Des cirés de pompiers.
Des cirés de marins, quoi.
C'était ça,
et un masque.
Ils affrontaient quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire de tous les.
Et dans un pays où c'était secret.
Oui.
Tout est secret. Mmh. C'est-à-dire que sans dévoiler, c'est quelque chose qui n'aurait même pas dû se produire parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient même pas au courant de pourquoi ça s'est produit et les gens. Il y avait beaucoup de déni, en fait. Et donc, j'ai trouvé que justement sur le fond c'est très 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 glaçant de regarder un spectacle comme ça, parce que quand on regarde Game of Thrones, quand on regarde Breaking Bad, quand on regarde des choses comme ça, c'est de la fiction. Ouais. Et ça c'est de la réalité romancée, ouais, mais sur une base de réalité. Et même si je disais ça prend peut-être des libertés par rapport à la réalité et à certaines choses, on sait qu'il y a quand même des gens qui ont souffert, qui en sont morts. Et que ça a eu des conséquences très très importantes, même, y compris géopolitiques.
En Europe, oui, aussi.
Mais non, non.
Les problèmes de glandes thyroïdes.
Il n'y a jamais eu. Il y a eu un coup de vent là, tu sais, c'est jamais
la frontière
passé,
s'est arrêtée, hein, les douaniers étaient là.
Ils nous l'ont dit.
Ils mélangent pas tout. Pas créer une polémique.
Et donc là, je vous parlais du fond, mais sur la forme, parce que c'est aussi, il y a quand même autre, il n'y a pas que le fond dans cette série qui est importante. C'est sur la forme, on a un casting qui est formidable, je trouve. Les acteurs et les actrices sont hyper charismatique et colle très très bien aux protagonistes de l'époque. Quand on regarde les photos historiques, et ils sont pas là pour singer, on n'a pas l'impression qu'ils font de l'imitation de gens. Non, ils sont complètement crédibles et ils jouent des personnages très très importants. C'est très très c'est assez froid, c'est sobre en fait. Voilà, il y a pas de fioritures, on est vraiment dans l'URSS,
comme les Russes,
on pourrait
quoi.
Croire, mais c'est vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on se croit vraiment en 1986, quoi. Il y a ce côté austère, les grandes barres de béton, très peu de verdure, etc. Enfin,
quand tu dis 1986, que c'était austère, pas que quand même.
En Russie.
On avait Jean-Jacques Goldman. Hein,
on avait cette chance, nous.
On avait cette chance. C'est vrai, c'était.
Mais eux ne l'avaient pas. D'où l'austérité. C'est pas faux. Et puis dans un autre quelque chose qui est assez marquant, et c'est pour ça que vous avez remarqué, d'habitude j'illustre toujours avec de la musique quand je fais des choses, et là il y a quasiment aucun thème musical. Une série qui se fait sans quasiment musique. La chose qu'on entend le plus, c'est le bruit du compteur GGR, le qui revient très régulièrement, mais le générique, c'est juste Tchernobyl sur fond noir, écran blanc qui dure 5 secondes et on passe direct à l'action. Et à la fin, c'est fond noir, le générique toujours sans bruit, sans musique, sans rien du tout. Et ça crée cette ambiance qui fait que moi, ça me donne cette image où, de temps en temps, c'est quand tu disais, t'as fini de regarder une œuvre et puis tu restes dedans, oui, en fait. Ouais, ouais. Ben là, c'est ça. Tu regardes le générique finalement parce que t'es happé par le
alors
truc.
Finalement, il se passe rien du tout, oui, dans le générique, mais tu restes.
Tu restes
le contre-coup,
dedans,
en fait.
T'as pas la musique qui te coupe de ton immersion. T'es complètement. Tu restes dans le truc en fait.
Ouais, tu vas être quelque chose. Ouais.
Et aussi, donc, dans l'image, il y a une photographie qui est assez, dans des tons assez gris, assez. Bah, assez.
Saturé.
Et des cadrages aussi qui font ressortir l'architecture de l'époque, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez formidable. La mise en scène, tu parlais tout à l'heure, est aussi très efficace dans cette œuvre, avec des scènes qui sont très marquantes, comme tu disais. De temps en temps, ça peut être marquant visuellement, parce que souvent on reste sans voix sur ce qu'on voit en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des mots. De temps en temps, juste une image peut exprimer beaucoup de choses. La façon dont la centrale et le réacteur sont filmés, ça en fait des personnages en fait. Ils sont menaçants alors qu'ils ne bougent pas, mais c'est super bien filmé. Et il doit y avoir beaucoup de post-production parce que forcément ils ne peuvent pas les filmer là-bas, mais on s'y croit complètement. Les larges plans extérieurs nous donnent l'impression d'être dedans, mais aussi les plans claustrophobiques qu'on peut avoir à l'intérieur de la centrale, les gens qui sont coincés, etc. Enfin, dans tous les cas, ça fonctionne et on est vraiment dedans. Et puis là encore, on a plusieurs points de vue. On adopte plusieurs points de vue. Un coup, on suit le point de vue des liquidateurs. Un coup, celui des scientifiques. Un coup, des hommes politiques. Et hommes et femmes politiques. Mais bon, l'URSS, c'était plutôt des hommes politiques. Et c'est vrai qu'il y a cette diversité de points de vue qui fait qu'il n'y a pas de jugement de « tiens, c'est un tel, c'est la faute d'un tel ». Non, c'est un problème de système. C'est un problème global de plein de gens qui n'ont pas voulu voir les choses, qui sont cachés derrière l'intérêt supérieur de l'État pour certains, derrière des idéologies pour d'autres, et des fois les deux qui se joignent. Enfin, c'est assez
important. Mais en même temps, à l'origine, il y a bien un problème à l'origine.
Technique ?
Enfin, un problème technique.
Je ne le dévoilerai pas parce que c'est ce qui est dit vers la fin. Il l'explique à la fin.
Mais il l'explique.
Oui,
il explique le point de départ, en fait.
Pourquoi ça a
l'instant
explosé,
zéro oui. ou
Parce qu'au début, tout le monde dit c'est pas possible. Un réacteur de ce type-là ne peut pas exploser.
Voilà, c'est ce que j'avais lu. Et donc là, ils expliquent dans la série comment
ça a explosé. Voilà.
D'accord. Super intéressant.
Donc voilà. Et donc dans le propos aussi, c'est assez marquant parce que ça fait souvent passer des fois à 1984 où il y a ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire justement. Quand je dis 1984, c'est le roman de George Orwell, où avec justement cette espèce d'état policier, enfin où les gens s'espionnent les uns les autres, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'on a le droit de dire, et puis même les gens sur leur lit de mort osent toujours pas dire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur que ça puisse être répercuté sur leur famille, etc. Enfin toutes ces choses là. Et puis le déni de l'époque, dans le propos, c'est vrai que même en France, on l'a rigolé tout à l'heure, le nuage s'est officiellement arrêté à la frontière, et puis pour d'autres, alors que ça avait été vu par photo satellite, que jusqu'en Suède, ils savaient ce qui s'était passé sur quelle centrale, parce que tel type d'isotope radioactif venait de tel endroit. Enfin, c'est le fait de dire on peut pas dire ça parce que l'URSS est un état puissant et donc n'a pas de faille. Donc, et on peut pas dire qu'il y a une faille. Et s'il y a une faute, c'est forcément une fausse humaine. Ça peut pas être une faute du système et de l'État. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces toutes ces imbrications qui sont assez importantes. Et donc chaque épisode, c'est ce que je trouve bien, c'est que c'est, je disais tout à l'heure, c'est une mini-série. C'est, ça se prête vraiment à ce thème et à ce format, parce que c'est ni trop court ni trop long, et chaque épisode aborde un angle différent, donc ce qui fait qu'on s'ennuie pas, on est glacé, on est pris, on est happé. Enfin, j'ai vraiment adoré cette série. Alors il y a quelques petits moins de mon point de vue, mais c'est vraiment du minimum. C'est que certaines voix en VO, c'est une série qui a été qui se passe en Russie, mais qui est tournée par des Américains, et certains ont un accent américain très très fort, marqué, voire texan, tu vois. Donc ça, de temps en temps, ça te décolle un petit peu du truc quand tu la regardes en VO. Mais sinon, les acteurs sont vraiment excellents. Il y en a même qui ont des têtes un peu trop américaines à mon goût, qui font pas assez russes par rapport à d'autres qui font pas assez russes. Ça, c'est un stéréotype, mais je veux dire, ça.
Non, c'est pas raciste.
C'est vraiment un mini effet, je dirais, s'il fallait vraiment chercher la petite bête. Et une autre chose que tu évoquais tout à l'heure, c'est un effet pervers qui existait déjà un petit peu avant, mais qui visiblement ressort depuis quelques semaines à cause de la série. C'est le dark tourisme. Donc le tourisme d'aller, enfin, les gens qui vont voir les catastrophes et qui font ça, et surtout des influenceurs d'Instagram qui vont se prendre en photo parfois à demi nu sur Tchernobyl, etc., pour faire du buzz sur la série. Et c'est vrai que le réalisateur a été obligé de faire une communication en disant: n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont souffert là-bas, un peu comme certains qui vont faire les malins à Auschwitz ou des choses comme ça.
C'est
un manque
là.
De respect, et votre notoriété ne mérite pas, enfin n'est pas suffisante pour justifier d'aller profaner, entre guillemets, au moins la mémoire de ceux qui ont souffert et qui souffrent toujours à cette époque-là. Donc voilà, il y a cette espèce d'effet pervers médiatique par rapport à ça, si on devait voir des mauvais côtés, mais qui n'ont rien à voir avec la série en tant que telle. C'est plus le. Voilà,
là, ça c'est. Croisement du dark tourisme et du tourisme sur les séries aussi, de manière plus générale. Quoi.
Également. Donc, la question qu'on se pose, voilà, c'est Tchernobyl aujourd'hui, on l'a évoqué, donc il y a du tourisme. Depuis 2011, on peut y retourner, mais certaines zones restent encore contaminées par les radiations et ne peuvent absolument pas être visitées, notamment l'hôpital où ont été administrés les premiers pompiers, où leurs vêtements sont toujours sur place et ils sont toujours aussi radioactifs maintenant qu'à l'époque. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez importantes. Et moi, j'avais suivi ça un petit peu indirectement, parce que dans la société dans laquelle je travaillais avant,
sarcophage.
On a fait, enfin pas moi, mais j'ai pas mal de collègues qui ont travaillé sur le sarcophage qui est refermé depuis 2017 maintenant, au-dessus de la centrale. Et j'ai donc souvent suivi les travaux depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que dans l'air, il n'y a plus rien, mais le sol est contaminé. Ce qui fait que la première chose à faire, les gens pouvaient travailler sur le site, mais d'abord, il fallait étanchéifier, étanchéisser, il fallait le rendre étanche, je crois, il fallait que le sol soit étanche, et une fois que le sol était étanche, il n'y avait plus de possibilité de libération de matériaux radioactifs, et
c'est imperméabilisé,
voilà.
Étant frais, c'est du conditionnel.
Et donc ils ont construit le sarcophage à côté, et ils l'ont ripé, c'est-à-dire déplacé, parce qu'on ne peut pas encore s'approcher du réacteur, et ils l'ont déplacé il fait 100 mètres de haut, le sarcophage.
C'est incroyable.
Et il est là pour tenir une centaine d'années. Il y avait déjà eu un premier sarcophage en 2008, et celui-ci a été mis en place. Voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, donc j'ai eu le temps de le suivre, mais c'est vrai que la série, elle apporte vraiment un regard très immersif, et enfin vraiment ça, en 5 épisodes on est complètement, on a l'impression d'avoir vécu des années avec
des épisodes de combien de temps?
50 minutes, 50 c'est une heure.
D'accord.
55 minutes peut-être, je sais plus, mais
c'est que sur OCS, dommage, c'est ça
Oui. OCS ou HBO, enfin voilà.
Je vais regarder ça.
Donc
en fait,
voilà.
Là où avant tu aurais eu deux téléfilms, enfin c'est rigolo maintenant, on travaille ça sous forme de série finalement.
C'est vrai, t'as raison.
Mais ça s'y prête bien. En mini-série, en fait. Et ça appelle pas de suite. Alors peut-être que ça pourrait amener des idées sur justement. Aborder des sujets de réalité fiction comme ça, par exemple, on pourrait faire presque une suite de Tchernobyl, Fukushima, ou qu'est devenue la Russie suite à ça, que sont devenus les
gens. Ou simplement, comment ils ont mis en place le premier sarcophage, l'urgence un petit peu, en fait.
Exactement.
Et comment ils ont conçu l'imperméabilisation du sous-sol, parce que ça a été une technique assez novatrice, il me semble.
Improvisé, en fait, sur certains trucs. Mais...
Et donc voilà, ça pourrait être ça, là, c'est la saison 2.
Mais après, voilà, pour l'instant, ça suffit, en tout cas, là c'est 5 épisodes, c'est largement suffisant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur
cette série. Les deux trucs, là, pour le moment.
Je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Voilà, et bah, si on passait à quelque chose de plus léger, Didouille.
Ah, bah, c'est bravo.
Ouais, merci pour cette partie.
Bah, c'est plus léger dans le temps.
Ce qu'elle va aborder, tu veux dire.
Bah, oh la saloperie.
Oh putain.
Ça est plus léger.
Non,
dans,
je rigole,
dans la
je rigole. Mais, Parasite, moi, ça finit comment déjà?
Et venant de moi,
c'est parce que je
pas le prendre
sais
mal, hein.
Ce que Didouille va passer. T'as un jingle, toi? Mais non, mais tu as un jingle, Didouille.
Coquine.
Vous trempiez bien la tarte au poil une fois?
Moi, ou bien.
Et putain, mais faut que ça se touche, quoi. Faut une soirée fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, dis pas, mais là, c'est de la partousse pour Dalai Lama, là, des conneries.
Moi, ou bien.
Alors, Didouille,
eh ben, après nous avoir fait saliver, voyager en Corée...
À Tchernobyl. À Pripyat.
Moi, je décide de vous emmener au pays des sakura. Donc, au Japon, pour vous parler d'une série que j'ai découverte, sur Netflix, qui s'appelle Midnight Diner Tokyo Stories. Donc, parce que, en fait, le pitch, quand je l'ai lu, vous savez, sur Netflix, avant, il y a toujours une petite présentation. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allez, je regarde. Donc, c'est une série japonaise très célèbre là-bas. Et elle a été basée sur un manga, ce que je ne savais pas quand j'ai regardé la série, parce que moi, j'étais vierge de toute chose, hein, quand même. Et donc, ce manga du même nom, alors titre original, c'est Shinya Shokudo.
D'accord.
Est sorti en 2006. Oh. Et l'auteur s'appelle Yaro Abe. Au Japon, cette série, elle est sortie en 2016. Il y a trois saisons d'une dizaine d'épisodes. Et nous, en France, elle est arrivée en 2017, je crois. Et on nous propose que la première saison actuellement sur Netflix. Elle est tellement appréciée, cette série, au Japon, que deux films sont sortis sur grand écran là-bas. Donc, cette série-là, bah, un petit synopsis, je vais vous expliquer. Alors, réunis autour de petits plats traditionnels préparés avec amour, le chef et les clientes d'un petit restaurant de quartier établissent peu à peu des relations simples mais profondes. Donc là, je me suis dit, oh, c'est sympa, ça ressemble un petit peu à notre culture française, à savoir, nous, on aime bien s'attabler autour d'un repas, échanger. Donc, allez, allons-y. Et là, ce que vous entendez, c'est le générique. Alors déjà, le générique, moi, il m'a carrément plu. Cette musique d'un calme hyper apaisante, et vous voyez le générique passer, c'est très flashy, ça contraste avec le Tokyo et les panneaux publicitaires très éclairés, ça fourmille dans les rues, il y a les bateaux, et on arrive à un moment à un personnage qui fume sur le balcon et une voix off. C'est la voix off du master, le maître, donc c'est le chef, on l'appelle comme ça, le maître, qui explique que lui, à l'heure où tous les Japonais rentrent chez eux après leur journée de travail, lui ouvre son petit restaurant dans un petit quartier à minuit. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de gens viennent dans ce petit restaurant. Oh, j'étais carrément accrochée. Donc, regardons. Alors, plus généralement, se retrouvent dans ce restaurant des habitués et des personnes qui viennent soit parce que les habitués les invitent dans ce petit restaurant ou des nouvelles personnes. On se croise et on apporte son histoire autour d'un plat. Chaque épisode porte le nom d'un plat. Alors, pour exemple, l'épisode 1, c'est le tanmen, un bol de nouilles.
Le tas de merde.
Le tanmen.
J'ai pas osé.
T'as le pogo, le corn dog au poisson, le tonteki, escalope de porc frit, etc., etc. Mais il faut savoir qu'au début, le master précise que dans son restaurant, il n'y a qu'un menu, la soupe de miso au porc. Mais si vous avez une demande spéciale, il est prêt à vous le préparer s'il a les ingrédients. Alors, moi, j'ai adoré, et je pèse mes mots, tant pis si vous la regardez, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'adore l'idée qu'un plat commandé puisse être le connecteur entre les gens, et c'est un plat qui va soit rappeler des souvenirs à celui ou celle qui va le commander, ou soit parce qu'il peut surprendre par les petites variantes que le master va mettre et qui va susciter donc des échanges. Et on va connaître petit à petit l'histoire de celui qui commande ce plat et pourquoi il est là. Donc, au début, on se dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Parce que le Japon, tout le monde le sait, les Japonais adorent manger, tout le monde le sait. Mais là, c'est vraiment une occasion de donner aux différents personnages des occasions de se confier ou de créer des interrogations pour créer des connexions entre tout le monde. Alors, au fur et à mesure des épisodes, il y a des personnages qui vont revenir, qui sont récurrents, des petits personnages secondaires. Des fois, ça se croise à nouveau. Donc, nous, on s'y attache. Au début, on les a vus, donc on les revoit arriver. On connaît son histoire parce qu'à un moment donné, on n'en saura plus sur ce personnage. Et des fois, on se met à la place de ces personnages parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Alors, c'est jamais méchant. Et il y a ce fameux master, le maître, à qui on passe commande. Qui lui, on ne sait rien de lui, absolument rien. C'est un personnage très, comment dirais-je, taciturne. Enfin, pas forcément taciturne, parce qu'il va être à un moment donné soit un confident pour celui qui explique son histoire, soit une écoute attentive, ou carrément, il va donner un conseil indirect et ça va servir forcément à celui qui vient raconter son histoire.
Il a une forme de sagesse, en fait.
Voilà.
Qui n'est pas exprimé comme ça, mais une espèce de sagesse, ce qu'on disait, de force tranquille. Il est juste
exactement.
Là.
Il est juste là, mais on s'interroge aussi sur lui parce que bon, il y a quand même 10 épisodes dans la saison et en fait, on ne sait rien de lui.
Et lui
ne se livre pas. Quand ça bavarde, il est en retrait dans sa cuisine. Quand il laisse ses hôtes, ses clients échanger, et il fume des cigarettes. Et on a des plans comme ça, et on voit toujours une balafre sur son visage, mais ça nous titille parce qu'on a envie d'en savoir plus. Donc c'est cap. Au dernier épisode de la saison 1, qu'on a juste un petit truc qui pourrait éventuellement nous dire qu'il a une histoire, mais on ne sait pas laquelle. Alors, cette série, pour moi, elle est super touchante. Elle est hyper poétique de par l'image. Ce petit quartier qui est très connu à Tokyo,
Shinjuku.
Avec toutes les lumières qu'on connaît du Japon et de Tokyo, c'est un tout petit quartier. C'est juste éclairé par des lanternes et des petites guirlandes électriques. Et quand on rentre dans le restaurant, c'est tout aussi intimiste, tout aussi... c'est vraiment apaisant. Après, quand vous le regardez en VO, le japonais, c'est pas très apaisant.
Très tout drôle.
Ouais.
Ouais, voilà.
Mais en même temps, ça participe au charme de la série. Ouais. Moi, je vous déconseille vraiment de le regarder autrement qu'en version originale.
Si tu veux l'immersion, oui, c'est mieux.
Ouais, voilà.
Je pense.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de différents genres. Là, on est sur la même ligne de conduite, mais par contre, on a le côté, un épisode, ça va être complètement barré, très surjoué, très manga, avec ce qu'on connaît des Japonais. C'est le premier épisode, notamment. Mais il est génial, le premier épisode. Le deuxième, il est super touchant. Ça va être hyper poétique. Et là, moi, j'ai pleuré, je le dis quand même. Moi, j'ai pleuré sur 2 épisodes. Moi, ça m'apaise.
Il cuisine mais des vraiment... oignons, non.
Non, mais vraiment, c'est très apaisant. C'est génial. Et alors, la construction de l'épisode, donc ce générique, la voix off, il explique qu'il ouvre, et ça, vous l'aurez à chaque fois. Et à la fin de chaque épisode, chaque plat qui est mis en évidence... dans l'épisode, est également mis là à l'honneur à la fin par les personnages eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vous donnent leurs petits secrets pour réussir leur mets préférés. C'est un petit cours très succinct de cuisine et ils n'oublient jamais de vous souhaiter bonne nuit. Donc ça a un côté, je te fais sortir de l'épisode que tu viens vivre, là c'est ma recette de cuisine, je te la donne, tu as envie de la faire, tu l'essayes. Alors, je me suis interrogée un tout petit peu plus. Je me suis dit, je vais aller voir quand même le manga. Le manga s'appelle La Cantine de Minuit, qui est sorti aux éditions Le Lézard Noir en 2016 en France. Alors, ce petit manga a quand même remporté le 55e prix du manga de Shogakukan. Shogakukan qui est maison d'édition très connue au Japon. Alors je me suis dit, tiens, c'est quoi Shogakukan ? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner ? Il a gagné quand même la modique somme de 1 million d'yens, qui équivaut à près de 7 800 € pour ce manga. Et donc, en continuant mes recherches, je tombe sur le livre de cuisine de la cantine de minuit. Que
c'est ça que tu as.
Je me suis procuré. Alors, certains diront sur le manga que les traits sont très grossiers, que ça respecte.
Je trouve quand même que les traits sont très grossiers.
Non, moi, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas lu le manga, mais il préférait vraiment le trait qui est beaucoup plus fin de Yaro Abe, qui est donc l'illustrateur et celui qui a écrit le manga. Donc, il est sorti le 6 juin. Et moi, je l'ai, je suis trop contente. Donc, dans ce petit livre de cuisine, vous allez retrouver des planches du manga avec des protagonistes et leurs plats préférés. Et donc, du coup, voilà, vous avez le plat préféré et vous avez la recette.
Voilà,
et on vous explique pourquoi les personnages aiment tant ces recettes. Alors, ces recettes-là ont tous été testées et goûtées par le lézard noir et validées par le lézard noir. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est super, parce que franchement, il y a des fois, quand on regarde les épisodes, on a vraiment envie d'être à la place de ceux qui ont commandé le plat pour manger, quoi. Et je vous conseille vivement cette série, j'ai adoré. Et à l'intérieur, il y a aussi une interview avec celle qui a fait les photos. Alors, je ne sais plus son nom, je l'ai noté quelque part, je vous le dirai plus tard.
Demain,
ou jamais,
ben non, ça n'est pas très grave.
Attends, Miyako Slocomb.
Ah oui, c'est
non, on dit, voilà. On dit Miyako Slocomb, s'il te plaît.
Et elle a fait toutes ces photos de plats. Et je trouve qu'elle est styliste culinaire. Et c'est avec Yao Abe qu'ils ont décidé de sélectionner certaines recettes. Et donc voilà, j'ai juste hâte. J'ai essayé de me renseigner s'il y avait la saison 2 qui était envisagée sur Netflix. Pas de renseignement là-dessus. Donc, si vous ne savez pas quoi faire donc cet été,
vous pouvez regarder.
Sachant qu'un épisode dure 30 minutes.
Voilà, ah oui, c'est ce que j'allais. J'allais dire.
Il y en a 10, c'est ça.
Oui. Oui.
Franchement, ça se regarde.
Et ça Alors moi, j'ai plein de coups de cœur. Enfin, j'ai mis des petits coups de cœur. Moi, j'adore celui Umurasu, c'est l'omelette de riz frit. Umeboshi, les prunes marinées et patates douces sautées. Voilà, ça c'est mes préférés. Alors pas pour les recettes de cuisine,
non, mais pour,
pour la relation et l'histoire. Et,
c'est celle où tu as pleuré.
Alors celle où j'ai pleuré, c'est...
Avec les oignons.
La patate douce sautée, c'est la peau.
Non, Oburesu.
Il y a celui
les épons par qui.
Et moi, j'ai regardé des épisodes avec Didouille. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté très... quasiment familial aux épisodes, c'est-à-dire que tu rentres là-dedans, en fait, tu rentres dans le resto et tu as l'impression d'être vraiment en fait avec
les clients,
comme si tu faisais partie des clients.
Juste
en fait.
Une question, c'est traité comment ? Parce que la façon dont tu le présentes, ça fait série documentaire,
ah non,
alors qu'en
tout.
Fait c'est série tirée de quelque chose, donc c'est faut pas le voir comme un documentaire,
comme
on pourrait voir Chief Stable ou des choses comme ça.
C'est
vraiment traité comme des.
C'est une fiction. Le restaurant, c'est pas un restaurant comme chez nous. Hein. On s'attable tout autour.
Oui, c'est autour du bar, quoi. Enfin,
voilà, exactement. Donc les gens s'installent les uns à côté des autres, ne se connaissent pas. Regarde les plats qu'ils. Enfin, oui. Tout le monde regarde les plats. Qu'est-ce que manges toi ?
C'est une façon de présenter des tranches de vie et des histoires.
Exactement.
Est-ce que ça reste un huis clos ? Et c'est-à-dire quand les personnages parlent de leurs histoires, est-ce que tu restes dans les lieux et ça dialogue ?
Alors,
ou t'as des flashbacks, des choses comme ça ?
Alors voilà, c'est quand y a un plat et qu'il y a une confidence de fête ou qu'ils commencent à raconter leur histoire, il y a des flashbacks.
Tu sors du restaurant.
Et tu sors du restaurant.
En fait.
Mais tu ne vas pas. On garde cette image, ce graphisme très intimiste quand même. Les couleurs sont toujours très chaudes. Il n'y a rien d'agressif. Il y a un épisode où c'est dans le milieu professionnel, où ça fourmille, mais c'est pas agressif en fait. Il y a vraiment une tonalité qui, moi, je trouve très apaisante.
C'est très apaisant en fait comme série.
Et moi j'en ai fait 3 d'affilée.
Qui dit apaisant dit pas chiant.
C'est pas chiant.
Après, je voulais dire un truc sur ça, c'est que il y a un côté très. Ça va être un peu galvaudé comme ça, mais c'est un peu feel good, mais En fait, tu te sens bien. En fait, oui. Et d'ailleurs, Didou disait oui, il t'explique comment ils font la recette, etc. Mais en fait, c'est complètement intégré dans l'histoire. C'est pas genre attention, maintenant on va vous faire le cours de cuisine à la Maïté. Pas du tout. Tu vois, c'est intégré dans la série. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, ce que disait Didou tout à l'heure, c'est la conclusion, puisque les protagonistes principaux, ceux qui sont le sujet même de l'épisode, hein, au cœur de l'intrigue, quand ils te saluent, en fait, quand ils disent bonne nuit, t'as un côté presque. En fait, ils mangent, ils se retournent, c'est la fin de l'épisode.
T'étais avec nous au restaurant pour le manger, bonne nuit, je te donne mon secret.
Comme s'ils pétaient le quatrième mur, comme s'ils s'adressaient à toi, ils s'adressent au spectateur. Et c'est très très marrant, en fait, la façon dont c'est fait. Et du coup, t'as une espèce de connivence qui se fait comme ça avec le spectateur qui est assez chouette, quoi.
Qui crée l'immersion.
Totalement.
Alors voilà, donc. Non, honnêtement, Didou, il voulait regarder. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, on va jeter un œil. Et c'est vrai que tu peux te laisser prendre par cette espèce de.
Ouais, de rythme.
De rythme, parce qu'en plus, les épisodes sont tous. Ils ont une même structure, ils sont tous bâtis de la même façon, avec. L'intro est toujours la même, tu as toujours. La préparation
c'est une routine,
du plat.
Enfin, un rituel, voilà, en fait.
C'est un rituel. Voilà.
Et t'as des personnages qui peuvent être hauts en couleur, ou t'en as certains qui sont tout en sentiment, avec des histoires des fois hyper rocambolesques, et puis d'autres très touchantes, et dans une. Tout ça dans une atmosphère intimiste, et tu ne peux que te laisser embarquer.
Est-ce que le manga dont est issu la série, il est encore édité, il est encore trouvable?
Oui, tu le trouves. Alors c'est 18, c'est entre 15 et 18 euros. Il est à la Fnac, il est chez Cultura. Je pense que si tu vas dans n'importe quelle librairie en le demandant, tu peux te le procurer. Mais franchement,
j'imagine le fait que la série soit sur Netflix de lui donner un éclairage.
J'imagine.
Ouais, au moins.
Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est quand je parlais de ritualisation tout à l'heure, c'est qu'en plus tu as Didou parlait de personnages récurrents.
Ça vous donne une couleur de film, là.
Didou parlait de personnages récurrents. Ouais. En fait, c'est un des systèmes de cœurs, comme les cœurs antiques. Mmh. Je m'explique, en fait, c'est que tu as, c'est comme presque un théâtre, enfin pas un théâtre, mais c'est au niveau, c'est une image. Hein. C'est-à-dire qu'il est le maître est là dans son restaurant. D'ailleurs, les clients l'appellent maître.
Ouais, hein,
c'est très très marrant.
Massa.
Et tu as le cœur, c'est-à-dire c'est les habitués.
Sama plutôt, non?
Et tu.
Allez, bing.
Non, je sais pas.
Dis-moi, je veux pas manger massa, moi. Massa, j'aime massa, moi.
C'était quoi, masala? Non, je sais plus.
Tikka masala.
Tikka masala. Ouais. Et tu as donc, entre guillemets, ce cœur, c'est les clients, les habitués, qui sont soit trois femmes, soit tu as les hommes de l'autre côté, et tu as cette espèce de dialogue et ils interagissent, ou ils commentent. Ce qui se passe, c'est-à-dire l'histoire, ou en tout cas l'action telle qu'elle arrive, en fait, telle que les personnages principaux ou le personnage principal de l'épisode la vit, en fait.
Attends, parle mieux que moi, Didou.
Non, tu l'as dit très bien.
Didou, c'est la cantine de minuit, est-ce que c'est une fiction pure, ou est-ce que ça s'inspire d'une histoire vraie, peut-être d'un restaurant qui aurait existé comme ça, tu sais pas, non?
J'en ai aucune idée, mais de ce que j'en lis, au départ c'est un manga, Yaro Abe, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trop trouvé grand chose sur lui, mais peut-être que Ludo va trouver l'information.
C'est quoi le nom originel du manga?
Alors le nom originel, alors,
il a peut-être été traduit,
hein,
mais...
Parce que je ne gère pas. C'est Shinya Shokudo.
D'accord. Shinya Shokudo.
Et c'est ça, c'est traduit en français, La cantine de minuit.
Oui. Et sur Netflix, c'est Midnight Stories. Diner.
Non, ah, pardon.
Midnight Diner, Tokyo Stories.
D'accord.
Voilà.
C'est pas indiqué. J'ai regardé le livre que Didou a ramené. C'est pas indiqué. Mais.
Bon, bah tant pis. Hein.
Mais je peux me permettre, Didoui. J'aime beaucoup la façon dont ils annoncent le truc sur le livre, en tout cas, dès qu'ils le présentent. C'est mon restaurant est ouvert de minuit à 7h du matin environ. On le surnomme la cantine de minuit, mais pour certains, c'est plutôt la cantine de l'aube. Et puis l'histoire qui démarche. Je trouve ça
assez. Ce n'est pas traduit tout à fait comme ça. Oui, parce que normalement,
Voilà, à peu près.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu notre 5 minutes cliché. Si vous voulez faire des imitations, c'est le moment.
C'est le moment, Marius.
On peut faire Marseille aussi.
Du coup, moi, dans ma lancée, parce que j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas la saison 2, je me suis aussi essayé Samouraï Gourmet. Oh, ça m'a fait chier. Là c'est trop surjoué, c'est pas du tout ce qui me fait kiffer. Voilà.
Donc ça, tu le déconseilles?
Non, parce qu'au bout de deux épisodes, j'ai squitté. Donc des fois, il faut, dans certaines séries, aller plus loin que les premiers épisodes. Mais là, ça ne correspond pas à ce que j'aime. Moi, j'aime bien le côté poétique japonais. Voilà.
Eh ben écoute, très bien. En tout cas, tu l'as bien vendu aussi.
Ouais, ça donne vraiment envie.
Ouais. On va rajouter ça à la liste des choses à regarder sur Netflix.
Ou à lire.
Donc, merci Didouille pour cette rubrique.
Wow, quelle spontanéité.
Quelle rubrique.
N'est-ce pas? Ah, vous avez vu un peu. Et on va passer à monsieur Christophe.
Yes.
Christophe, qui va nous parler d'un bouquin, je pense.
Ah, étonnant.
Mais de quel bouquin vas-tu donc nous parler?
Et c'est ça. Et je vais te raconter un exemple que c'est du tout qui s'intéresse. Et c'est ça, je trouve que c'est important.
Et donc Christophe, de quoi donc nous parles-tu?
Alors donc après toutes ces merveilleuses choses sur écran, un peu de lecture pour changer. Donc je vais vous parler d'un roman écrit par quelqu'un qui s'appelle Fabrice Caro, qui est plus connu pour ses BD, évidemment, dont Zai, que tout le monde ici a lu et qui nous a tous fait beaucoup rire. Avec, bon, on va pas s'éterniser. Et donc Fabrice Caro, plus connu donc sous le pseudo ou l'abréviation Fab Caro, s'essaie pour la seconde fois au roman, parce qu'il en a déjà écrit un en 2006 que je n'ai pas lu. Et donc avec ce nouveau roman, il s'installe dans une espèce de fantaisie littéraire absolument délicieuse, un petit peu à l'image de ses BD aussi. Donc le point de départ de ce roman, c'est cette soirée donc qu'Adrien, le personnage principal, passe avec sa famille, c'est-à-dire ses parents, sa sœur et son beau-frère. Son beau-frère qui s'appelle Ludo, ça m'a fait marrer.
Ça, je crains le pire.
On va voir.
Je crains le pire.
Alors au début de ce repas en fait, et en cachette de sa sœur, Ludo donc demande à Adrien de faire un discours le jour de leur mariage, quoi, parce qu'il vient de l'annoncer, en disant, tu sais, ce serait le plus beau des cadeaux pour ta sœur, hein, c'est vraiment... Mais faire ce discours pour Adrien le jour du mariage de sa sœur, avec qui il n'a aucune complicité, et qu'il vient justement de se faire larguer par son ami, et que de toute façon, intérieurement, il se dit que sa vie est un vrai désastre, eh bien, va faire émerger, en fait, tous les petits travers relationnels de la vie. Et comme si cette soirée ne s'annonçait pas assez pourrie, Adrien, personnage angoissé dont l'incapacité à communiquer est grande, va s'auto-flageller en envoyant un message à son ex pour prendre de ses nouvelles. Erreur fatale. Elle ne répond pas et elle a pourtant lu le message. Mais dans cette société de l'instantané, toutes les divagations du héros vont se mettre en branle parce qu'il se dit... Pourquoi elle ne répond pas, quoi. Donc, dans ce roman, nous entrons dans un double univers, c'est-à-dire celui du monologue intérieur du personnage Adrien et celui du huis clos familial avec tout ce que ça peut comporter comme drôlerie. Donc, le discours est donc un enchaînement de situations cocasses, absurdes et désabusées, donc portées par notre personnage, Adrien, qui est narrateur en même temps. Et qui, donc, durant ce repas un petit peu particulier, va se livrer, en fait, faire une introspection profonde et touchante de sa vie, de ses proches, de ses relations, de son amour, de ses amours, et le tout dans un espèce de ton doux amer. Et ce qui est très fort, c'est qu'avec le même style qui sait le faire en BD, c'est-à-dire un style frais, loufoque, absurde, composé de chapitres très courts. Et on a vraiment, on sent que, on retrouve en tout cas l'univers de la BD. Et pourtant, il n'y a pas d'image, c'est un roman.
Visuel.
Ouais, c'est ça.
Tête.
Et donc, je trouve que la plume de l'auteur, elle reste, elle est simple, elle est limpide, et elle permet une lecture fluide et agréable. Et comme on a pu le découvrir sur certaines de ses BD, Fab Caro a un sens de l'observation très très aiguisé. Et surtout un irrésistible humour absurde qu'on retrouve dans le texte. Et là, il arrive à envelopper tout ça dans un récit qui tient vraiment la route et qu'on ne lâche pas, en fait. Le roman donc, accumule les scènes désopilantes, ponctuées de ces petits flashbacks intimes, débauche hilarante de ce fameux discours pour ce mariage, qui d'ailleurs, en fait, au fil du roman, va évoluer.
Raconte pas trop pour Arnaud, il va se faire mal aux oreilles.
Non, non, je raconte pas trop, mais en fait, le discours va évoluer au fur et à mesure des événements d'une idée, au fur et à mesure de l'évolution d'une idée, en fait, qui devient de plus en plus cauchemardesque. Et donc, les discours, finalement, ils s'adaptent à l'ambiance générale du dîner.
Ça va être super drôle.
Et le ridicule des situations. Dans lesquels Adrien s'imagine, finalement, s'enchaîne avec bonheur. Et c'est vraiment un délice. Moi, j'ai vraiment adoré. Et donc, ce qui est à la fois très bien fait, c'est que c'est à la fois drôle et touchant. C'est caustique et tendre. Et Fab Caro tisse un espèce de regard, je l'ai déjà dit, doux-amer sur les relations amoureuses comme familiales. Et donc, il rebondit à chaque fois sur les deux thématiques. Et donc, tout sonne vraiment juste dans ce roman. C'est percutant, c'est toujours bien vu, tout est vrai. Enfin, on a l'impression...
Je trouve qu'il maîtrise super bien le comique de situation. Voilà. Donc, dans le pitch que tu viens de me donner, là, ça doit être vraiment délicieux, en fait.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout sonne vrai. C'est-à-dire que tu dis, mais c'est exactement ça, quoi. Il y a un peu de mélancolie. Tout sonne très drôle. Parfois, c'est hilarant. Et en même temps, tout de suite après, on replonge un petit peu dans dans le type qui a une vie désastreuse, mais comme c'est dit avec humour, finalement,
ça passe, beaucoup
d'autodérision.
C'est un peu autobiographique, non, finalement ? Est-ce que le personnage, c'est pas un peu de lui ? Parce qu'on le voit dans certaines de ses BD, en fait.
Je ne sais pas, parce que je ne connais pas assez l'auteur.
Quand tu regardes de ses carnets du Pérou, je crois, qu'Arnaud l'avait prêté, ou Pause, où de temps en temps, il fait une petite... il fait une BD qui tourne autour de lui et tu te rends compte que c'est la façon dont lui se pose les questions et finalement ses bouquins, ses œuvres, c'est la façon pour lui d'extérioriser toutes ses angoisses.
C'est autobiographique.
C'est pour ça, en fait.
Peut-être
la description que tu fais depuis tout à l'heure, ça me fait penser à Carnet du Pérou où il se retrouve tout seul
sur ses difficultés
d'auteur. Donc c'est pour ça que ça me parle bien, en fait.
Bon, donc peut-être que c'est autobiographique, mais faudrait faire des recherches, peut-être que...
Ou pas, d'ailleurs. On retrouve ces thématiques.
Ça peut faire écho à des choses qui...
Oui, je pense qu'il y a, des choses qui sont forcément du vécu, parce que... Ou alors, pour moi, c'est un sens aiguisé de l'observation, c'est ce que je disais. Ou bien, c'est du vécu. Mais toujours est-il, c'est qu'il a...
Ça sent le vrai. Quoi.
Ouais, ça sent le vrai. Il est jamais dans l'exagération ou la facilité, en fait. Et donc, pour moi, ce roman, donc pour conclure, parce que je vois le temps qui défile, ce roman résonne comme un hymne un petit peu aux inadaptés de l'existence, en fait. C'est moi, je l'ai un petit peu pris comme ça, mais tout en maintenant, en fait, cette touche d'espoir nécessaire à la poursuite de sa vie, quoi, finalement. Et je trouve que ça, il sait vraiment très bien le faire. Moi, j'ai été happé par ce roman. Vraiment, à conseiller.
Finalement, t'as pas perdu en n'ayant pas les images. Finalement, tu retrouves le fond qui fait rire, quoi. Les images, elles apportent un...
On a l'impression d'être dans une BD parce que, de toute façon, il décrit tellement bien les situations avec un langage qui est vraiment très, très accessible. En fait, il se prend pas la tête, quoi. Que les images, en fait... C'est toi qui te les crées, en fait. Les bulles, si on a lu un petit peu de Fab Caro, les bulles, elles apparaissent, en fait.
J'avais été demandé justement, il a vraiment un style particulier bien à lui. Tu te les imagines dans son style, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'aurait lu aucune de ses BD, peut-être que ça ne fera pas ça. Oui. Mais dès l'instant où on a lu, je sais pas, deux, trois de ses BD, ce qui est mon cas, j'en ai pas lu énormément parce qu'il en a écrit un paquet quand même.
Très productif.
Et donc dès l'instant où on a cette connaissance de son univers de la BD, en lisant ce roman, on est plongé dans une BD.
Et en même temps, la force de sa BD, elle est justement dans le dialogue et dans ce qui s'y dit plus que dans le dessin.
Exactement. Oui.
Ça dépend parce que justement, quand je parlais de comique de situation, des fois, justement, comme il se passe quasiment rien de la première bulle à la dernière, tu fais pas attention. Sauf que des fois, dans le texte, à la fin, tu te dis, j'aurais peut-être dû regarder vraiment parce qu'il y a le petit détail qui tue.
Oui.
C'est vrai encore... qu'il y a certains. Je vois ce que. Enfin, en tout cas, je pense à certains trucs, des gens sur un canapé, tout ça. Qui peuvent être visuels aussi.
La roulade qui prend 4 cases, c'est à mourir de rire.
Mais t'as raison, c'est sa force d'observation aussi qui fait qu'il arrive à voir dans les détails, faire ressortir une idée force.
Mais là, donc la description. Enfin, lui, il est dans le roman, il est là, dans la BD, il est dans le dessin, mais là, la description, elle est aussi précise qui peut le faire dans une BD, et donc ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que le comique de situation, il le décrit là au lieu de le dessiner, et ça marche à fond, quoi. Vraiment, c'est un super roman.
Ça doit se lire vite, non?
Et ça se lit très vite. Ouais. Ouais. Et puis c'est chapitré de façon très, enfin, ce sont des chapitres très très courts,
ouais, et
qui
se
fait que
bon,
voilà, on s'ennuie pas une seconde, et oui, évidemment, ça se lit très très vite.
Top.
Donc, je rebondirai du coup, parce qu'on en a parlé un peu en off avant, puisque encore une fois, on a parlé sur notre petit forum privé. Moi, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, justement, parce que je suis abonné sur Audible d'Amazon, et j'ai vu qu'il y avait Fab Caro, cette œuvre-là qui était sortie, et lue par Alain Chabat.
Ah bah, je pense
et
que
donc,
être,
quand j'ai vu le combo,
terrible.
Je me suis dit, mais c'est dingue ça. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, bah justement, je viens de le lire, ça va être le sujet de l'entrepôt. Ah donc ouais. Là, je pense que je vais j'attendais. Ah ouais. Je voulais pas le lancer avant que t'en parles pour justement le découvrir un peu
donc,
après.
Là, je pense que ça va être. On connaît tous Alain Chabat. Je pense que les deux mêlés, c'est-à-dire le texte de Fab Caro,
ça doit être super
lu et interprété par Chabat, je pense que ça va être, à mon avis,
à mourir de rire.
À mon avis, tu vas passer un bon moment.
Je voudrais regarder combien de temps il dure, parce qu'on parlait de combien de temps ça se mettait, enfin ça, on pouvait le lire, Fab Caro, 3h20, lu par Alain Chabat.
Donc ça veut dire que le livre se lit
rapidement.
Ouais,
je sais pas comment c'est.
Et donc moi j'aimerais bien aussi malgré le fait que j'ai lu le roman, je pense que on va voir, peut-être que c'est faux, peut-être que la lecture d'Alain Chabat va peut-être pas.
Peut te sortir aussi parce qu'il va voir ce qui n'est pas ta voix intérieure et qu'il va peut-être être déçu sur certaines intonations.
Mais je pense que connaissant un peu le personnage de Chabat.
A priori, les deux univers
que,
se marient.
Oui. Voilà, enfin, ça m'étonnerait que.
Ils pourraient bien se marier.
Voilà, c'est ça. Les deux vont plutôt bien ensemble. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin. C'est vraiment un chouette moment à passer.
Ok. Je voulais peut-être à la rigueur essayer de.
Tu veux quoi?
Mettre un extrait. Mettre l'extrait en fait.
Ah, t'as un extrait?
Je regarde si je peux le
Ah non, au début je voulais lire un extrait, mais j'ai pas réussi à le trouver à un moment très drôle.
L'extrait qui est mis en place en Audible, justement, quand ils te mettent en avant, tu peux toujours écouter un extrait en fait.
Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Il laisse tomber ces quelques mots, comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder. Appliqué à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. Débattre d'une telle proposition relève du superflu, voire du grotesque. J'ai beau chercher, je n'y décèle pas l'ombre d'une intonation interrogative. Son autorité naturelle ne s'encombre d'aucune question, de volume sonore, de regard droit. Rien de très élaboré, hein, quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. C'est tout ce que je trouve à répondre. Ma mère et ma sœur reviennent de la cuisine à ce moment-là. Il ne manquait plus que ça pour me pourrir la soirée. Un discours. De ma place, je peux apercevoir le porte-serviette au mur de la cuisine et m'étonne d'être encore traumatisé 30 ans après par ce chef-d'œuvre d'ébénisterie initié par notre professeur de technologie de 6e en guise de cadeau de Noël pour nos parents. Il s'agissait d'élaborer un porte-serviette en forme de sapin à partir d'une planchette rectangulaire. L'exercice avait pour but de nous familiariser avec le tour, la meuleuse, la fraiseuse et autres outils au nom barbare dont l'utilité nous échappait et m'échappe encore aujourd'hui pour tout dire. Nous devions ensuite clouer 3 épingles à linge sur la planchette et le tour était joué, un jeu d'enfant. À ceci près que, très vite, la situation m'échappa et mon sapin se mit à prendre une forme aussi incongrue que périlleuse. J'avais beau tenter de rectifier le tir, scier, meuler, limer, fraiser, rien à faire. J'assistais impuissant à la genèse d'une forme qui prenait vie malgré moi, revendiquait son indépendance avec morgue et rébellion, et je regardais, hébété, paniqué, mon porte-serviette de Noël s'éloigner du concept initial de sapin pour se rapprocher lentement mais sûrement de celui de bite. Plus je m'acharnais à m'en écarter, plus elle se dessinait. Plus je visais le sapin, plus la bite se précisait.
Bon voilà, ça donne
ça la séance, la boîte,
ça donne un peu le ton et je trouve que c'est très bien.
Je peux juste en ajouter une.
Vas-y.
Si à 17 ans on m'avait dit « Le soir de tes 30 ans, tu regarderas le gendarme de Saint-Tropez seul avec tes parents », je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route.
Voilà.
Et j'en ai 40 et un à 17h56. À 17h56, ça a lu mon message. C'est très, très drôle.
Ah ouais, bah, franchement, écoute, c'est un super moment. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, il y a des moments dans la vie où on ne va pas forcément très bien. On se plonge dans le bouquin et subitement, on a le sourire qui revient parce qu'on se dit... Bah, finalement, voilà.
Faut le prendre d'une autre tête, du bon côté aussi.
Voilà, c'est ça. Il faut prendre les choses un peu ternes. Il faut les
voir le côté drôle de la situation.
Et toujours trouver le côté drôle, effectivement.
Ok, bah écoute, bah merci beaucoup, ouais. Ça donne envie aussi.
Ah, carrément. Okay. J'ai acheté mon dernier Fab Caro il y a une semaine.
Ah, bah oui.
Et je l'ai lu en 35 minutes.
Ah oui,
c'est horrible en fait.
Ouais, t'es addict.
Ah, mais carrément, fais trop rire.
Et ben voilà pour ces rubriques de l'Anthropode. Ah, mais dis donc.
Mais nous, que se passe-t-il à ça ?
Un message ? Un message ?
Qui ne sait pas ça ?
Qui ne sait Kidring ?
Alors un message de notre... Je crois que c'est un anonyme, encore une fois. Donc, le problème, c'est qui est-ce ?
Oui, non...
Un anonyme bourré.
On connaît lui.
Non, ça, c'est ça pour voit. Dire... je suis venu vous voir à la radio. À Paris, là-bas, rue Bayard. J'aurais dit, je vais voir l'entrepôt. Avec les filles... Fripouille et raclette. Notez, j'aime bien toutes les filles. Oui, bon, je connais, hein, Paris. À la radio, j'allais voir Bouvard. J'aime bien. Les grandes têtes. Je m'avais signé un autographe. C'est marrant, parce qu'en vrai, je suis plus petit qu'à la radio. Bon, ben, je suis allé pour rien, moi, là-bas. Pareil. Pas d'entrepôt, qu'on m'a dit. Alors, il m'a redit l'adresse. Et puis, bah, ce sera pour la prochaine fois.
Voilà, bon, bah. Je vois que monsieur bah, je veux bien lui redire l'adresse, mais on sait pas qui c'est.
Il faudrait qu'il y ait un nom, je sais pas, il a pas un nom, ce monsieur.
Parce que l'entrepôt à Paris, effectivement, il trouvera pas, mais bon. Au moins, il a vu Bouvard, il a un bel auto.
Moi, je pense qu'à Paris, il y a plusieurs entrepôts. Hein. Ah bah, c'est ça fort, le problème. Hein.
Mais à Paris, il n'y a pas Fripouille et Raclette.
Je trouve que ça vous va bien. Je sais pas pourquoi.
J'adore cet auditeur. Il apporte une espèce de forme de poésie surannée.
Et surréaliste aussi. Eh bien, nous allons passer à nos coups de cœur. Hein, sur cette belle transition, je vois qu'un coup de cœur d'auditeur est au nôtre. C'est parti. Et pour les coups de cœur, puisque Marius doit s'en aller, on va commencer par lui. T'es prêt, Marius ?
Ouais, ça marche.
Donc, Marius, c'est à toi pour le coup de cœur. Tu es prêt ?
Ouais.
C'est parti.
Donc, moi, je vous ai déjà parlé des festivals au Normand, que je sais si bien mettre en valeur. Eh bien, rebelote, je remets ça avec le Normandie Metal Fest, un festival qui a lieu sur la commune de Louviers, au Moulin, début juin, pour la troisième année consécutive. J'ai eu la chance d'être accrédité en photo au dernier moment. Un avant Hellfest que du bonheur et des organisateurs qui mettent le paquet, 15 groupes de métal, trash, heavy metal dans tous les sens qui se succèdent sur deux scènes, intérieure et extérieure, pour la bonne humeur des festivaliers. On peut manger sur place, on peut boire sur place, on peut faire des emplettes sur place, les bénévoles sont vraiment sympas, ça vaut le déplacement. Et peut-être que l'entrepôte pourrait poser ses guêtres là-bas, affaire à suivre. Je suis en contact. Ce qu'on entend derrière, c'est un groupe au Normand, Prophecy of Apocalypse, qui était présent sur le festival, sur lequel j'ai carrément craqué musicalement et photographiquement. Les photos sont sur mes comptes Insta et Facebook, Marius Miner Photographe, plus tous les autres présents. Je recommande vivement ce festival qui, j'espère, aura lieu l'année prochaine et sur d'autres, sur de longues années.
Merci Marius, et on verra pour aller à ce festival peut-être l'année prochaine. Christophe, à ton tour. Tu es prêt ? Tu as un chrono ? Tu as quelque chose ?
J'ai pas de chrono, mais enfin, il y en a un là, mais il faut...
Fripouille, s'il te plaît. C'est parti, Christophe.
Alors, un coup de cœur musical pour ce quatuor rennais intitulé Initial Bouvier-Bernois. Clin d'œil à Gainsbourg et à Brigitte Bardot, Initial Bébé, Bouvier-Bernois, race de chien, un parallèle, qui nous donne à entendre une pop très originale, aux influences latino-américaines teintées d'un swing très jazzy, une excentricité musicale très maîtrisée, avec une élégance qui groove et qui groove et qui groove. Découvert par les transmusicales de Rennes l'an dernier, je vous recommande très chaudement leur album sorti également l'an dernier. Ah, je vous laisse écouter la suite parce que c'est mieux que tout. That's my business, man. I got things to make you better. If that's your plan,
gotta ask him, what are you shaking? What are you shaking your head? What are you shaking? What are you shaking your head?
Donc, Initial Bouvier Bernois.
Initial Bouvier Bernois.
Je trouve que le nom est
merci
super
Christophe,
original.
Carrément,
quoi.
Là, déjà. Fallait le trouver.
Fallait le trouver, oui.
Didouille, à ton tour.
Yep.
Mais qu'est-ce donc ton coup de cœur?
Oh, ça va être rapide.
Non, mais c'est pas
ça,
la question.
Ça va faire une minute, hein.
Ça va être une minute, la question, c'est qu'est-ce donc? J'ai pas de musique à passer.
Ah, ben, non, pas du tout, sinon je te l'aurais dit, tu crois bien.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Où avais-je la tête? Donc, Didouille, si tu es prête, c'est à ton tour.
Tu vois, il n'y avait pas besoin de musique. Non, ça paraît décalé, mais bon, moi, je l'ai vu sur le tard. J'ai vu sur le tard la fameuse dernière saison de Game of Thrones. Et honnêtement, j'ai adoré. Et j'ai adoré. Je trouve que tout est bien ficelé. On a tout ce qu'il faut pour chaque personnage. Et je suis un petit peu... surprise de certaines réactions de certaines personnes qui étaient fans de Game of Thrones et qui n'ont pas du tout aimé la fin. Je pense que c'est des frustrés d'une série. Voilà. Non,
c'est un point de vue.
C'est mon point de vue.
Tu penses à quelqu'un en particulier?
Non. Pourquoi tu t'aimes pas, toi?
Ah, si, moi j'adore.
Oh non.
C'est ça, t'aimes pas.
Non, mais je pensais que t'avais... finir, il reste 4 secondes.
Oui, tout ça pour vous dire que allez regarder aussi le reportage où on les voit lire comment ils terminent dans la dernière saison, c'est génial. Voilà.
The Final Watch, c'est ça, non?
The Last Watch.
C'est pas The Final Countdown?
The Last Watch.
Last Watch, ouais.
Très bien, merci Didouille.
Elle vous en prie.
Ludo.
C'est à moi. C'est parti.
Ludo, c'est parti.
Donc moi, je vais vous parler de Heilung, un groupe de folk expérimental dont le concept et la musique sont basés sur l'histoire de l'Europe du Nord, et plus particulièrement tout ce qui tourne autour de l'âge de fer, des civilisations vikings, etc. Alors dit comme ça, ça peut un peu faire peur, et pourtant... Heilung, moi je les avais découverts avec Nico et Marius au Hellfest l'année dernière.
Très belle photo de Marius.
Ouais, franchement, ça avait été vraiment une claque sévère. C'est une expérience visuelle, sonore, c'est complètement trippant, quoi. C'est pas du tout métal, hein, c'est basé avec des instruments, on va dire.
Traditionnels, même pas traditionnels, quoi. C'est...
Donc voilà, leur troisième album, Futa, je sais pas comment on dit, sort le 28 juin.
Ah, il n'y a personne pour traduire, tu remarqueras.
Et ce morceau, Norupo, en est le premier extrait. Donc voilà, c'est un truc magique pour moi qui a complètement laissé de marbre ma femme et mes gosses. Mais moi j'adore, je vous laisse apprécier.
Ça c'est chamanique trans.
Exactement.
Je confirme.
Merci Ludo. Arnaud, t'es prêt? C'est parti.
Alors moi je voulais vous parler de Moi ce que j'aime c'est les monstres, une BD de l'américaine Emile Ferris sortie en France en 2018. Le narrateur est une petite fille d'une dizaine d'années, Karen, qui vit avec son frère et sa mère à Chicago à la fin des années 60. Comme note Monsieur Lulu, elle est fascinée par les fantômes, les monstres, les morts vivants, les loups-garous, et un jour sa voisine Anka Silverberg meurt d'une balle dans le cœur. Meurtre, suicide, Karen va mener son enquête et on va plonger dans le passé très sombre, très très sombre en fait, de cette femme. Parallèlement, on va découvrir le quotidien de Karen, ses liens profonds avec son frère et sa mère, ses amis. Tous ont leur part de mystère, de bizarre, mais si tant est qu'on sache ce que c'est que le bizarre. C'est beau, c'est profond, j'ai vraiment été happé par l'histoire. Graphiquement, c'est vraiment époustouflant, tout est fait au stylo bi. Chaque page, c'est vraiment une claque visuelle à mes yeux. Ça n'est que le livre 1, donc je suis à la fin de ces 400 pages au milieu de l'histoire. Et franchement, j'ai vraiment hâte de lire la suite, qui visiblement sort en septembre prochain aux États-Unis. Alors pour la sortie en France, je ne sais pas.
Merci Arnaud, super. Starlet, à ton tour, tu es prête?
Oui. Alors mon coup de cœur ce mois-ci, c'est la sortie du dernier album de Nash. Il est sorti le 24 mai et comme je vous l'ai déjà présenté, je ne vais rien redire, je vais vous laisser écouter le premier titre qui s'appelle L'Aventure, titre de l'album.
Comme l'oiseau parcourir la vie, découvrir ma voix, décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds, quand le ciel s'éteint, moi j'avance vers bercée par l'univers, plus rien ne me retient. J'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure. Je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors tout me fait peur. Je pars.
Voilà.
Alors, et toi, Monico, maintenant, ouais, ton petit coup de cœur.
Merci, Starlette. Et je vais donc conclure les coups de cœur, moi aussi, avec de la musique. C'est parti. Et donc, moi, je vous présente Frank Carter and the Rattlesnake. Donc, l'album The End of Suffering. J'étais obligé de parler de cet album parce qu'il tourne quasiment en boucle depuis sa sortie à la maison, depuis le 3 mai. Donc sur la forme, l'album, on peut dire qu'il est assagi et moins énervé que les précédents. Sur le fond, par contre, les textes sont sombres et tournant toujours autour de, enfin, beaucoup autour de la rupture et de la dépression. C'est le résultat des problèmes de vie que Frank Carter a rencontrés entre drogue, tentative de suicide, rupture, etc. Donc j'ai galéré pour choisir un titre, mais j'ai choisi Kitty Sucker, que vous pouvez écouter là. Et sinon, j'ai un gros coup de cœur pour le Hellfest qui nous permet de participer pour la 5e année consécutive. Avec un côté très Arcade Fire, Arctic Monkeys, je trouve, par moment.
Carrément. Carrément.
Voilà pour Frank Carter and the Rattlesnakes.
Tout l'album est bien, en fait.
Ah, extraordinaire. Et donc voilà, on arrive à la fin de cet enregistrement, de ce 49e épisode.
Incroyable.
Vous allez voir, ça va nous amener l'été, ça.
Bah, c'est sûr, ça qu'il
c'est
faut.
Sûr.
Un truc.
Tu prends pas trop de risques en disant ça le 14 juin, mais 15, 16, 15.
Mais il faut y croire, voilà.
Bah, allez, moi je dis, dans 6 jours, l'été est là.
Exactement. L'été est
l'été
là.
L'été est là.
Et c'est l'entrepôt qui vous l'a annoncé. On fait, on défait les carrières, y compris les saisons.
Et moi, je dirais que l'été sera chaud.
Oui.
Ah, voilà.
Oui.
Tropique au compteur, change pas le moteur.
En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, c'était sympa de se revoir. On s'était pas vu depuis la friche, en fait.
Oh la vache,
quand même,
oui.
Ça fait un petit moment.
Comme j'étais pas à la friche.
On avait pas mal de bons retours.
Ah bah oui, on était en équipe réduite en plus à la friche.
Bah carrément. Donc
et
là,
maintenant,
ça fait...
c'est vacances.
Vacances.
J'oublie tout. J'ai rien à faire du tout.
C'est toutes les musiques des années 80.
Ouais, là, c'est vacances. Pourquoi ils font ça, les gens?
Sex and Sun.
Le soleil.
Coquillages et crustacés.
Donc vous retrouverez tout ce dont on a parlé. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé au cours de l'émission, sauf ces chansons-là, sur le site de l'Anthropode.
Essaye encore une autre, parce que fais gaffe, tu vas essayer de continuer, on va t'interrompre.
Tout nu et tout bronzé, sous les sunlight des tropiques, il y a du soleil et des nanas, da la dire la dada.
Bon, bah, je crois qu'on on a conclu, en fait.
C'est pas mal.
Je pense que là, sur un malentendu, il y a moyen de conclure. Donc... vous retrouverez tout ça sur notre site. Si vous avez apprécié, si vous avez des choses à compléter ou des choses à nous faire découvrir, n'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur le site entrepod.fr. On a toujours le répondeur sur le site de l'Anthropode, donc faites pas les timides, faites comme notre anonyme qui veut pas laisser son nom, mais bon, déjà au moins il s'exprime.
Je pense qu'il voudrait peut-être bien, mais qu'il oublie.
Peut-être, je pense qu'il oublie plein de choses en fait, il oublie des mots, bref. Donc le site a été assez peu alimenté dernièrement en termes d'articles et de billets, mais bon, il y en a un petit dernier si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur un super jeu, Brothers: A Tale of Two Sons, qui est un jeu, on parlait de Brothers: A Tale of Two Sons, vont parler d'onirisme, de poésie et de choses comme ça. Là, c'est un jeu qui peut vous plaire. Sur Tipeee, vous pouvez nous témoigner votre soutien de manière financière. N'hésitez pas non plus, faites pas les timides, ça pourra nous aider, voilà, à modifier un petit peu notre
grâce
matériel.
Grâce à vos contributions, on a quand même pu s'équiper. On se faisait justement la réflexion qu'avant, on prenait à peu près 4 fois la place qu'on prend maintenant avec notre matos,
voilà,
en taille et en poids.
Voilà, donc c'est beaucoup plus facile, utile
donc
et pratique pour nous.
Donc on peut plus se déplacer, déplacer le
studio. On remercie tous ceux qui ont contribué à tout ça jusqu'à présent. Et puis n'hésitez pas, parce que là, on commence à avoir des pieds de micro qui partent un peu en vrille pour certains. Donc bon, on va... Il va falloir renouveler un petit peu le matériel.
Puis on a besoin de fringues neuves aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis de caouettes, et puis tout ça. Quoi. Et sinon, le meilleur moyen pour nous aider, ça reste de parler de l'émission et de la partager autour de vous. C'était donc le 49e épisode. On réfléchit à quelque chose à faire pour le 50e, marquer le coup, certainement dans le courant de l'été. Mais pour l'instant, suspense. Vous aurez une surprise. Et d'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver autour de la table, monsieur, dame, Christophe?
Je ne sais pas. Je vous dirai ça plus tard.
Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Voilà. Didouille.
En Anjou.
Ouais, avec Star.
Raclette et fripouille vont en Anjou.
Festival Anjou, festival vintage vélo.
Vélo. Alors, vélo.
Il y a un mot qui pas dans le bon ordre.
Puis il y a un mot qui me paraît bizarre en fait. Dans
vélo.
Mais vélo, on ne fait pas. Nous, on danse.
Festival vélo vintage.
Voilà. D'accord.
Cabernet, mais nous, on danse du Charleston.
Ouais. D'accord. Eh ben, écoutez, très bien.
Premier week-end de juillet.
Peut-être que
on
vous
sera
nous ferez des petites photos de là-bas pour l'entrepôt. Ah bah, partager votre truc.
Attends, puisque on pense qu'on aura des partenaires pour notre cours.
Je veux.
J'en aurai des photos.
On en discutera. On en discutera.
Question, est-ce que vous partez en vélo?
Alors non, parce que.
Ta religion te l'interdit?
Raclette n'a pas de vélo vintage. Non, c'est surtout qu'on s'y est pris carrément à la bourre à cause de fripouille.
Ah, ça va être sympa leur week-end.
Ça sera la bonne entente des
deux. Ouais.
Non, on a déjà réservé le rosé d'Anjou.
Bon, bah voilà.
C'était la base.
Les fondamentaux.
On verra la prochaine fois.
Oui. Mais on va tester pour qu'on y aille la prochaine fois, peut-être avec plusieurs voilà, filles. Okay. Donc, même garçon, hein.
Ouais. Et donc toi, mon petit gros chat.
Oh, mais même chose que toi, mon petit minou. Moi, on va me retrouver bientôt. It's the final countdown.
Quoi
Il a chanté.
C'est Europe en japonais, ça, non
Ah oui, en japonais.
Oh, Hellfest avec toi, mon petit bonhomme, et puis.
Grand bonhomme qui a dû s'absenter.
Il
a dû s'absenter. Un concert.
Hellfest,
il est parti acheter ses baskets.
Sans oublier la trottinette.
Ah oui, alors lui, il ira tout seul en trottinette et nous, on ira pire.
Non, bah, il a prévu de se déplacer en trottinette.
En trottinette. En trottinette, ouais.
C'est ça, ouais.
Voilà. Non, il avait des.
Trottinette sur les lieux.
Il avait des plans un peu chelous, genre se lever à 3h du matin pour partir à quelle heure.
L'enthousiasme Marius et Anne, on connaît bien.
Voilà, faut arrêter les conneries.
Profite qu'il soit pas là pour.
Là, il pensait faire rentrer un entrepôt de 2 heures en 3 quarts d'heure tout à l'heure. Je sais pas.
Enfin bref, il a dû voir la Vierge. Non, on l'a rassuré. Non, on va partir.
Non, mais on va se retrouver.
Après, s'il veut y aller en tropinette, il y va en tropinette.
D'ailleurs, c'est une tropinette, c'est donc des pieds à roulettes. C'est quoi?
Alors, on va pas rentrer dans ce débat-là tout de suite parce que je sens que ça va faire des vagues. Mais peut-être un jour, qui sait.
Qui va savoir. En tout cas, l'affiche est alléchante. Hein.
Du Hellfest.
On
en reviendra à chaque chose en son temps. Arnaud, où te retrouve-t-on?
Nulle part en particulier, je vais me reposer cet été.
D'accord, ah ouais, tranquille le mec. Hop, peinard. Bah écoute, t'as bien raison. Starlet, donc, toi?
On va boire du Cabernet d'Anjou avec Fripouille.
Ok. Et peut-être bientôt, dans un prochain épisode de la Pifothèque. Avec
mais
moi-même.
Oui, mais absolument, mais avec
sûr,
toi-même.
Puisque voilà.
Toi-même et moi-même sont dans un salon.
Et on écoute Nash en boucle. On alterne.
Oh, on a tiré Nash au hasard.
On l'avait dit à l'entrepote, non, que je m'étais fait tacler.
Qu'on avait renommé notre podcast.
La trichothèque.
Pourquoi?
Parce que
elle tire
au hasard, mais elle sait à peu près où
elle est. Elle se souvient qu'elle a posé là il y a 10 minutes, la dernière fois qu'elle l'a écouté. Quoi.
Ouais, c'est un hasard orienté. Quoi.
Donc voilà. Et puis, bah, pour ma part, je me retrouve au prochain Hellfest, dans la prochaine Pifothèque. Et puis, si vous êtes à un festival qui s'appelle Fourinalia du côté de E cet été, donc sur la côte normande.
Ils sont où, eux?
Du côté du Tréport, hein, t'as voulu m'avoir. Hein. Donc, le Tréport, il y a un festival, donc Fourinalia, qui mélange archéologie, rock, etc. Donc, c'est sur un site historique.
Le site
a l'air très, très sympa. Et donc, on a la chance de jouer là-bas avec mon groupe Wisdom. Ça sera le 28 juillet. La donc, classe, n'hésitez pas à venir jouer là-bas.
Moi, je joue à Furonculia. J'avais oublié de le dire. Hein.
Un site archéologique aussi.
Il y a fait longtemps qu'il n'y a pas eu de fouille et de.
Avec des cratères.
Le dernier qui l'a fouillé, c'était toi, Christophe. Hein.
Je me souviens bien des cratères.
Eh bah, sur ces belles paroles, sur ces mots, on reste dans la poésie jusqu'au bout. En fait, hein, voilà. Je crois que c'était le maître mot de cet épisode.
Poésie de l'été.
Voilà. C'est vrai que c'était très
poétique. La poésie de l'été de l'entrepode. Qu'est-ce qu'on se dit en général? Allez.
Bisous. We'll be right back.
Qu'est-ce à dire?
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 Qu'est-ce à dire?